internet, comme ici à l'Agora de la Fête de l'Humanité. Léa, tout roule ?
Nickel.
T'as dédicacé ton livre tout à l'heure ?
J'ai tout vendu.
T'as tout vendu, t'es dit ? Ah, trop bien.
Fabuleux.
Bravo.
Merci, Humanité.
Et toi, Climarx, t'as passé une bonne fête de l'humain jusque-là ?
Super, j'ai failli mourir par contre dans la foule de MC Solar, mais je ne suis pas morte.
Il y a énormément de monde à cette fête de l'humanité ici en Essonne. C'est un vrai plaisir. Chers amis, je vous propose que sans plus tarder, on accueille le premier invité de cette émission à l'occasion des 120 ans du journal L'Humanité, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, directeur de l'Humanité, Fabien Gay. Viens avec nous, Fabien, viens autour de ce plateau de Backseat. Fabien, on est très heureux de célébrer cet anniversaire avec vous. L'Humanité, 120 ans d'existence de ce journal, c'est extrêmement impressionnant. C'est quoi, toi qui es directeur de l'Humanité, c'est quoi l'identité de l'UMA dans le paysage politique et médiatique d'aujourd'hui ?
Bon, bonsoir à toutes et tous, et d'abord, merci de l'invitation. L'Humanité... C'est un quotidien d'abord qui a été fondé par Jean Jaurès, qui promeut la justice sociale et la question de la paix et de l'émancipation humaine. Et aujourd'hui, on y a ajouté la justice sociale et écologique, qui n'était pas présente en 1904, évidemment, à sa fondation. La deuxième chose, c'est que l'humanité, dans le premier éditorial de Jean Jaurès, notre but, il disait... vouloir faire un journal indépendant des puissances de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, indépendant des puissances de l'argent ? Ça veut dire que nous n'appartenons pas à un grand groupe industriel ou bourgeois, ou aujourd'hui aux 9 milliardaires qui détiennent 95% de la presse écrite imprimée en France. Et donc, ça demande de l'inventivité, ça demande de la réactivité. D'ailleurs, c'est pour ça que Marcel Cachin, qui a été directeur de l'Humanité en 1930, a décidé de créer cette fête de l'Humanité pour réunir d'abord toutes celles et ceux, les lectrices et les lecteurs du journal, les CDH, ce qu'on appelle les comités de défense de l'Humanité, devenus les comités de diffusion de l'Humanité, et une fois, le deuxième week-end de septembre, de donner rendez-vous chaque année. Ça fait maintenant près de 90 ans que cette belle aventure continue. Et donc, notre journal n'appartient qu'aux lectrices et lecteurs. Ils en sont des acteurs et des actrices. On est un journal engagé. Ils le vendent sur les marchés. Ça aussi, c'est une spécificité, notamment l'Humanité Magazine. Ils le lisent, ils s'y abonnent, ils le diffusent et chaque année... il verse à peu près 1,5 million à 2 millions d'euros en dons. Donc, une nouvelle fois, merci à nos lectrices et lecteurs, car sans eux, on ne pourrait pas exister
Fabien,
aujourd'hui.
Fabien, merci, effectivement, tu as raison. C'est les lectrices et les lecteurs qui font vivre l'humanité. Tu as parlé de Jean Jaurès. Jean Jaurès était un unificateur de la gauche. C'est aussi ce à quoi travaille l'UMA, unir la gauche, non ?
Oui, toujours. Je parlais de justice sociale, justice écologique. La question de la paix, rappelons-nous d'abord que Jean Jaurès a été assassiné à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'était un pacifiste. Donc la question de la paix, de la solidarité entre les peuples, l'internationalisme, d'ailleurs on a un village du monde où 110 délégations sont présentes, et notamment la question de la Palestine est extrêmement présente partout sur notre territoire. Et la deuxième spécificité de Jean Jaurès, c'est qu'il a travaillé à unir tout le courant socialiste, qui était d'ailleurs extrêmement divers à l'époque.
Très divisé, oui.
Entre les révolutionnaires et les modérés, je le dis, et je l'ai dit à l'inauguration, il y avait bien plus de débats qu'il y en a aujourd'hui entre toutes les composantes de la gauche. Et il a travaillé à réunir tous ces courants et à fonder un parti socialiste. Et donc oui, humblement, parce que nous ne sommes pas seuls, mais nous voulons être le creuset de... toute la gauche sociale et écologique, de donner la parole à toutes les luttes d'émancipation, de justice sociale, écologique. Et d'ailleurs, la fête, elle est à cette image. Il y a évidemment des centaines de stands du Parti communiste. On a une longue histoire avec le parti. Mais il y a aussi toute la gauche sociale, écologiste, féministe, antiraciste et au-delà, progressiste. Et ce que nous faisons à la fête de l'humanité, nous aimons le faire tout au long de l'année dans nos colonnes.
Fabien, pendant que tu parles, les auditeurs peuvent voir quelques unes historiques de l'humanité. 120 ans d'histoire du journal, il y en a eu des unes historiques. Dernière question pour toi, Fabien. 120 ans, c'est un bel âge, mais c'est aussi très moderne, l'humanité, puisque cette année, vous avez annoncé, ça a commencé hier, la création de la chaîne Twitch de l'humanité. Bravo à l'humain qui débarque sur Twitch. Sache que ça me fait super plaisir, j'ai apporté la politique sur Twitch il y a une dizaine d'années et de voir qu'aujourd'hui l'Huma arrive, ça me fait super plaisir. Bravo pour tout le plateau et tout le dispositif que vous avez pour la fête de l'Huma. C'est quoi les 120 prochaines années de l'Huma?
Les 120 prochaines années de combat, de lutte, d'émancipation humaine, d'un projet politique que nous nommons le communisme, mais d'autres peuvent l'appeler d'un autre nom, et d'ailleurs nous en débattons pendant 3 jours et tout au long de l'année. L'an dernier, on avait lancé notre nouveau site internet, une application. Les chiffres sont plutôt encourageants, puisque normalement, je pense que nous avons dépassé les 20 000 abonnés numériques pendant la fête de l'humanité, ce qui est évidemment un très bon chiffre pour nous. Et on continue à se déployer avec le quatrième EDA, Humastream. On aura un plateau de télévision que nous allons construire à la fête. On l'inaugurera, qu'on va construire à la fête. À l'humanité.
Oui, à l'Huma. Ouais.
On l'inaugurera le 15 novembre. Et donc, à partir de là, on pourra produire, y compris des émissions en live sur Twitch et sur d'autres plateformes. Donc, pour nous, c'est continuer à se déployer et toucher un public extrêmement divers et plus jeune.
Merci beaucoup, Fabien. Bravo. Longue vie à l'Huma, évidemment. Et attendez, parce que vous pouvez participer à cette longévité de l'Huma. Il y a un abonnement exceptionnel au journal numérique L'Humanité, 5€ pour 5 mois d'abonnement. Et les 5 prochains mois, les amis, il va se passer des dingues en politique. Je vous suggère de vous abonner à l'Huma parce que ça vous permettra de les suivre, ces dingueries. Voilà, n'hésitez pas, c'est dans le chat sur Twitch. Évidemment, vous avez toutes les informations sur le site de L'Humanité. Bénéficiez de cette offre exceptionnelle, 5€ pour 5 mois au journal numérique L'Huma.
Allez, longue vie à Baxit et longue vie à L'Humanité. Et profitez toutes et tous d'une belle fête et d'une grande fête de l'humanité. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Fabien. C'est parti, on va parler de l'actualité de la semaine. Alors, l'actualité de la semaine. Bon, on s'est pas vu depuis juin dernier, les copains. Donc, l'actualité de la semaine, ça va un peu être l'actualité de l'été. Évidemment, l'actualité de la semaine, c'est Michel Barnier qui a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Évidemment,
arrêtez.
On ne s'attendait pas à ce qu'il soit applaudi ici, il ne faut pas déconner. Mais on a quand même des choses à en dire, des analyses à en faire. Michel Barnier, qui a été nommé donc le 5 septembre dernier, après 51 jours de temporisation volontaire d'Emmanuel Macron, puis parfois un peu involontaire, on va en discuter. Michel Barnier est un homme de droite assumé, ancien ministre, ancien commissaire européen. Michel Barnier a été nommé dans des conditions très particulières puisqu'il a été nommé à la faveur de l'abstention annoncée du Rassemblement National de voter une motion de censure. Je me tourne vers toi, Rosa. Est-ce que on peut dire que après que pour la première fois depuis 1944, l'extrême droite participe, même indirectement, au pouvoir en France?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen, qui se défendait d'être la DRH de Macron, a donné son imprimature à cette désignation. Et c'est un peu le processus dans lequel on est. C'est que l'extrême droite qui a perdu ces élections législatives, qui n'est pas sortie victorieuse de ce scrutin, finalement se retrouve dans la position de faiseuse de roi. Et c'est bien elle qui a rendu possible la désignation de ce commissaire européen nommé pour continuer les mêmes politiques, en assurant Macron du fait qu'elle ne censurerait pas Michel Barnier, puisque l'argument de Macron, c'était de dire « moi, je recherche une formule de stabilité, etc. » Il s'est mis, en fait, à la place des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, des forces politiques qui auraient dû... En fait, il aurait dû se tourner vers le nouveau Front populaire, arriver en tête de ces élections pour désigner un Premier ministre issu de ses rangs. Et il a refusé cette formule-là, qui était la formule logique, pour aller rechercher des alliances tacites du côté du Rassemblement National qui se retrouve en position de décideur.
Climarx, je me tourne vers toi. Jordan Bardella a dit que le Rassemblement National ne participerait pas au chaos et au désordre, qu'il était responsable. Est-ce qu'on est dans la dernière étape de la dédiabolisation du Rassemblement National ? Est-ce que c'est ça leur strat ?
J'imagine que c'est leur strat, hein, tout à fait. Après, à voir ce qu'ils vont voter. Et déjà, s'ils vont voter le vote de confiance à Michel Barnier, et puis on verra déjà après ça. Quoi.
Parle bien dans ton micro, s'il te plaît.
Pardon. Je dis, si à part de motion de censure du RN, j'imagine que c'est la dernière étape de diabolisation. Mais comme tu l'as dit, c'est le gouvernement avec le RN, quoi.
Alors, Marine Le Pen a dit qu'elle ne censurerait pas Emmanuel Macron, mais en même temps, elle essaye de donner des gages d'opposition à Macron en disant « Je souhaite, en gros, une dissolution dans un an et qu'on refasse des élections législatives. » Léa, qu'est-ce que t'en penses ?
Oula ! Alors déjà, j'en pense qu'il faut toujours rappeler la situation actuelle, qui est quand même particulièrement inquiétante, hein, d'un point de vue démocratique. On en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il faut continuer à en parler. On est quand même face à un déni de démocratie qui est, à mon sens, très flippant. Bah si, on a un parti qui va finir par gouverner LR, qui est arrivé en cinquième position des élections législatives, qui a seulement 47 députés à l'Assemblée nationale sur 577.
Il y en a que 200.
Donc, je suis désolée, mais pour moi, c'est vraiment ne pas écouter le peuple. Macron a convoqué des élections anticipées. Il y a eu un taux de participation exceptionnel, c'est-à-dire que 60% de la population s'est déplacée pour aller voter, ce qui était inédit depuis des années. Pourquoi ? Pour se retrouver finalement avec un parti minoritaire qui va diriger le pays. Donc moi, je trouve que c'est particulièrement inquiétant et il faut le rappeler. Il ne faut vraiment pas faire l'économie de le rappeler, même si on l'a beaucoup dit. Ensuite, sur la question des alliances, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au sein de la Macronie. Parce que là, ça commence à bien gueuler aussi, mais ce qui peut se comprendre. Ils leur ont demandé d'aller faire campagne, une campagne éclair. Beaucoup de députés de la Macronie avaient dit « C'est quoi ce délire, en fait ? Nous, on n'avait pas prévu de repartir en campagne au bout d'à peine quelques mois de mandat. C'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il y en a déjà pas mal qui ont un peu fait la gueule pour repartir en campagne. Mais là, il y en a aussi pas mal qui font la gueule en disant « Mais attendez, c'est quoi ça ?» En fait, on va se retrouver avec des gens de LR au gouvernement. Il y en a plein qui vont sauter du côté des macronistes. Donc, moi, j'attends de voir un peu le bordel que ça va être à l'Assemblée nationale pour le groupe de la majorité, qui ne l'est plus, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, le groupe d'Emmanuel Macron, j'attends de voir ce qui va se passer.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans cette séquence, c'est que Emmanuel Macron a expliqué dans son courrier qu'il rejetait la candidature de Lucie Castet parce que, de toute évidence, elle n'aurait pas obtenu un vote de confiance, même elle aurait été censurée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour que Lucie Castet soit censurée, il faut qu'il y ait une addition des voix du Rassemblement National, des Républicains et des Macronistes. Et Emmanuel Macron, en disant que finalement ce sont les événements qui font qu'elle aurait été censurée, il omet de dire qu'il aurait choisi de la censurer. Emmanuel Macron a voulu censurer Lucie Castet. Et ça sert à rien de présenter ça comme un truc. Ah, c'est dommage.
Ouais, genre c'est pas moi, c'est toi quoi.
Ouais, c'est pas moi, c'est le Parlement, c'est quand même terrible. Le Parlement, il prend des décisions tout seul comme un grand. Non, il y a une centaine de députés macronistes qui prennent des décisions en obéissant à Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui décide ce qu'ils vont voter ces gens-là. C'est lui qui décide de nommer Michel Barnier avec.
Sauf que pour certains députés, notamment ceux qui avaient déjà été élus en 2017, ils ont gagné, pas beaucoup, hein, mais certains, une certaine autonomie par rapport au pouvoir exécutif.
Ouais.
Et par rapport à Emmanuel Macron. Donc il y a quand même des personnalités, je pense notamment à Gabriel Attal et d'autres qui auront peut-être pas envie de jouer le jeu du chef suprême. Quoi.
Naïm, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fait de désigner Michel Barnier Premier ministre alors que son parti, les Républicains, n'ont pas participé au Front Républicain qui a pourtant largement été plébiscité par les électeurs au second tour ?
Non, mais on est dans un scandale absolu. Déjà, il faut nommer le responsable, il s'appelle Emmanuel Macron, c'est lui qui a pris seul la décision de la dissolution alors que l'extrême droite était au plus haut, c'est lui qui voulait faire entrer l'extrême droite pour soi-disant se prendre la posture de celui qui résiste, et c'est Emmanuel Macron, alors que ses propres électeurs ont imposé le Front Républicain en votant pour la gauche, a décidé de mettre Marine Le Pen en faiseuse de roi. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui Marine Le Pen a le droit de vie ou de mort sur le futur gouvernement. Ensuite, LR, très franchement, quand on voit le nom des ministres, Pécresse, Wauquiez, Bertrand, c'est tout ça, c'est que des ministres de Nicolas Sarkozy. Et c'est le vieux monde qu'Emmanuel Macron a voulu mettre dehors qui revient aujourd'hui. Et Michel Barnier, on le connaît. Michel Barnier, on le connaît. Il a été commissaire européen. C'est lui qui a négocié pour l'UE, qui était négociateur en chef du Brexit. Et tout à l'heure, je faisais un débat au Forum social avec les cheminots. Et il y a Pascal Savoldelli, qui est sénateur du Val-de-Marne, qui a ressorti une archive. Et je me la suis notée quand même. C'est Michel Barnier, après le non en 2005 au référendum européen, il a dit... En réalité, il n'y a pas de mandat pour le non. C'est-à-dire que le peuple s'est exprimé en 2005 pour dire non à cette Europe, et lui, derrière, il est allé faire le traité de Lisbonne et fouler en pied la volonté populaire. Donc on est face à un scandale de démocratie. Peut-être que Lucie Cassi n'aurait pas retrouvé de majorité à l'Assemblée, mais dans une démocratie normale, il aurait dû appeler la gauche à former un gouvernement et à bâtir des compromis avec les macronistes. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est à la recherche de son pouvoir absolu, pouvoir qu'il est en train de perdre au fur et à mesure qu'on s'approche de 2027.
Je suis d'accord avec toi. Il y a une question quand même que je me pose dans la séquence qui va suivre, c'est est-ce que Marine Le Pen va pâtir de son soutien de fait au gouvernement de Michel Barnier ? Est-ce qu'elle va perdre des électeurs ? Ou est-ce que les électeurs qui votent Le Pen le font pour des raisons qui en fait sont indépendantes de ce qui se passe au Parlement ? Qu'est-ce que t'en penses, Rosa ?
Moi, je pense que la dédiabolisation du Rassemblement National, elle est un peu à double tranchant pour eux. C'est-à-dire que maintenant, ils apparaissent comme une force politique, un peu comme les autres, un peu installée. Bien sûr, ils jouent du fait de dire on n'est jamais, on n'a jamais exercé le pouvoir, vous n'avez jamais essayé, contrairement aux autres, on est complètement vierge, etc. Mais en même temps, le deal qu'elle vient de passer avec Macron l'installe comme un dispositif qui est au cœur du pouvoir, de la décision politique, etc. Et de ce point de vue-là, le profil de Michel Barnier est quand même intéressant parce que, comme le rappelle Naïm, c'est un de ceux qui a réfléchi à la Constitution européenne en 2005 qui gravait dans le marbre les politiques libérales que le peuple français a rejetées. À l'époque, le Rassemblement national avait fait semblant de dire nous rejetons ces politiques-là, nous sommes contre l'Europe de Bruxelles, etc. Et là, en fait, ils adoubent vraiment un type qui traîne 50 ans de vie politique derrière lui au service de ces politiques-là. Et là, effectivement, ça peut être à double tranchant pour le Rassemblement national, mais on l'avait vu déjà pendant les élections européennes, il y avait une manière chez Jordan Bardella de dire non, mais on va pas aller faire trop de rififi du côté de Bruxelles, du côté de l'Europe. On va, d'accord, il faut faire quand même l'austérité, il faut quand même faire des coupes dans les services publics, dans les dépenses sociales, etc. Et là, il y a une normalisation qui, effectivement, peut demain, si nous, on sait traiter ça un peu intelligemment, être un des points faibles du Rassemblement national. Moi, je ne crois pas que l'ascension du Rassemblement national soit irrésistible. On a le sentiment de... On nous installe dans le sentiment que ce serait inéluctable que le Rassemblement national, demain, arrive au pouvoir. Je pense que ce n'est pas inéluctable et que souligner le fait qu'ils sont là pour sauver des politiques que les Français ont sanctionnées, ça peut être un angle d'attaque.
Et ce qui peut être intéressant, c'est que la seule opposition qui va apparaître aux yeux des Français, c'est la gauche. Et ça peut être un truc intéressant. Encore faut-il qu'elle soit unie, on va en parler. Léa, tu voulais nous parler, je crois, du rapport Draghi qui vient de sortir.
Ouais, absolument. Je voulais, mais du coup, ça va toujours dans le même sens. Je voulais compléter ce que vous disiez, Naïm et Rosa. Déjà, Naïm, tu disais, il poursuit en fait son objectif qui est d'avoir le pouvoir absolu. Macron, c'est clair. Mais en fait, il poursuit aussi un agenda politique et idéologique en nommant Michel Barnier. Pourquoi ? Parce que Michel Barnier, c'est la réduction des fonctionnaires, c'est la réduction des indemnités chômage, c'est des cadeaux aux entreprises, c'est, et je peux en passer un bon paquet comme ça, c'est l'austérité budgétaire. Et en fait, c'est complètement aligné avec la politique de Macron qui est menée depuis 2017. Donc, aucune surprise en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un des arguments principaux de Macron pour dire « je vais nommer Michel Barnier à ce poste-là de Premier ministre », c'est pour rassurer l'Europe et rassurer les marchés dans un contexte où la France ne respecte pas, depuis un certain temps, les règles du pacte de stabilité et de croissance. Et comme Barnier était commissaire européen au marché intérieur et qu'en plus de ça, au marché commun, pardon, et qu'en plus de ça, il a été négociateur du Brexit, etc., ça devrait voilà, réconforter les investisseurs, les marchés et aussi l'Union européenne. Sauf qu'en réalité, l'Union européenne aujourd'hui est potentiellement en train de prendre un virage assez éloigné de ce que propose Michel Barnier en termes d'austérité, etc. Ouais. Parce que là, il y a alors non pas que je sois en train de faire une espèce de innovation de la politique budgétaire européenne, hein, loin de moi ça, mais il y a un rapport qui vient de sortir d'un ancien président de la BCE qui s'appelle Mario Draghi et qui dit qu'en fait, ces politiques d'austérité n'ont aucun sens et qui préconisent notamment de mutualiser la dette des pays européens comme ce qui a été fait pendant la pandémie, c'était vraiment inédit, et d'investir massivement dans les services publics, dans les infrastructures à hauteur de 5 000 milliards d'euros par an minimum. Donc en fait, même le plus haut finalement des libéraux de l'Union européenne qui était le président de la BCE est en train de dire que la politique d'austérité qui est en train d'être mise en place et qui a été annoncée par Bruno Le Maire depuis des années, des mois, etc. est peut-être en fait une erreur. Et donc ce gage de vouloir rassurer les marchés, rassurer l'Union européenne en nommant Michel Barnier, c'est pas forcément une bonne chose.
Ouais, c'est intéressant.
Donc, affaire à suivre.
Je rappelle que les chiffres du déficit qui sont annoncés pour la fin de l'année pourraient atteindre les 5,6%. Et Michel Barnier a d'ores et déjà dit qu'effectivement, il avait l'intention de s'attaquer à ce problème, etc. Pas beaucoup de surprises. On peut aussi regarder ce qui se passe du côté de la gauche. Le nouveau Front populaire a annoncé qu'il allait censurer le gouvernement de Michel Barnier sans surprise. Ça devrait intervenir dès le 1er ou le 2 octobre prochain à l'occasion du discours de politique générale. En même temps, on a vu aussi que ça commençait à craquer un petit peu au sein du nouveau Front populaire. On va en parler. Je pense notamment au bureau national du Parti socialiste qui a adopté une motion soutenant Lucie Castet et non pas Bernard Cazeneuve à seulement 53, je crois, % un truc comme ça. Est-ce que c'est déjà la fin du NFP, Climax?
Pour l'instant, c'est pas la fin, mais de toute évidence, pas que au Parti socialiste, ça commence un peu à tirer dans les pattes à droite à gauche. Hein. Mais après, de toute manière, moi je me suis dit pendant toute cette séquence politique, moi j'étais pas étonnée que Michel Barnier soit nommé, pas particulièrement lui, mais un mec, enfin c'est le troisième quand même Premier ministre issu de LR que ouais. Macron nomme, donc bon.
Oui, c'est vrai.
Voilà, je veux dire, pour un mec qui disait que c'était fini.
Décidément, il aime bien ce parti. Hein.
il peut prendre sa carte là. Enfin, je sais pas si c'est très judicieux. Mais il faut bien avoir en tête que de toute manière, la gauche, elle galère tout le temps et qu'elle est toujours traînée vers le centre. On est dans un moment où, peu importe ce qui va se passer, peu importe si la gauche finit par arriver au pouvoir, que ce soit au présidentiel ou aux législatives, ce sera toujours avec énormément de difficultés, avec énormément de bâtons dans les roues. C'est l'histoire du néolibéralisme, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'était tout pour empêcher la gauche au pouvoir. Mieux vaut une dictature autoritaire plutôt que la gauche au pouvoir. Donc il faut voir que c'est toujours extrêmement difficile pour la gauche d'arriver au pouvoir. Je me perds dans ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais...
Est-ce que c'est la mort du NFP?
Est-ce que c'est la mort du NFP?
Est-ce qu'il ne peut pas renaître de ses cendres?
Pour l'instant, il peut peut-être renaître de ses cendres. En tout cas, pour l'instant, ça pue un petit peu, mais on n'est pas encore mort. Quoi.
Non, on verra ce qui se passe. Je vais vous lâcher un indiscret, hein, parce que j'ai discuté avec Olivier Faure tout à l'heure, qui me faisait remarquer que... Je m'inquiétais des scores au bureau national. Et il me disait, ouais, mais en fait, le bureau national, il est issu d'un congrès auquel les adhérents nouvellement arrivés au PS au moment de la NUPES n'ont pas pu voter. Parce qu'en fait, la règle au PS, c'est qu'il faut avoir 6 mois d'ancienneté pour pouvoir voter au congrès. Et du coup, ça donne un petit peu une forme d'espoir pour l'avenir du Parti Socialiste qui pourrait éventuellement, au prochain congrès, l'année prochaine normalement, s'en sortir à meilleur compte et peut-être que les pro-Cazeneuve se retrouveront encore plus en minorité qu'ils ne le sont déjà. Je pose ça là. Vous connaissez mes pronostics pourris, donc prenez pas trop attention à celui-là, mais on en reparlera évidemment dans les mois qui viennent. Est-ce que la nomination de Cazeneuve a été une fausse bonne idée agitée selon toi, Rosa, par une partie du Parti Socialiste, ou est-ce que de toutes les manières Macron n'avait pas envie de nommer Cazeneuve, qui aurait été sous la coupe un peu du NFP, donc obligé de faire des trucs de gauche, un peu?
On sait maintenant que c'était pas une hypothèse crédible. Elle avait été, l'Élysée avait mis ça en circulation un peu pour amuser la galerie, mais il a jamais sérieusement pensé à désigner Cazeneuve. Mais de toute façon, la question ne se posait pas, puisque du côté du NFP, contrairement à tout ce que à tout ce qui avait été dit, les partis de gauche ont réussi finalement à se mettre d'accord pour désigner une candidate commune, une chef de file qui était leur candidate pour Matignon. Et ça, c'est un fait politique extrêmement important. Au lendemain, je ne sais pas si vous vous souvenez de la stupéfaction dans laquelle on était tous. Bon, déjà au lendemain des, enfin, au soir des européennes, lorsque Macron annonce la dissolution, on se dit mais on va tous, ça va être une boucherie pour la gauche.
C'est le RN,
et à ce moment-là, le mot d'ordre de Front Populaire sort. Les partis de gauche se mettent d'accord très très vite sur un programme en quelques heures. Ils se mettent assez vite d'accord sur des candidatures communes, sous pression aussi. Enfin, tout ça se fait pas juste entre les directions des partis politiques, etc. S'ils avaient été seuls à la manœuvre, moi, je pense que ça ne se serait pas fait. Mais il y avait une pression extrêmement forte du peuple de gauche, des manifestations, ces jeunes gens qui étaient sous les fenêtres des locaux où se négociaient les candidatures communes, qui appelaient les responsables de gauche à être sérieux et à faire face à leurs responsabilités dans le moment historique qu'on vivait. Et tout ça s'est fait extrêmement vite. Idem pour la désignation de Lucie Castel, ça a mis un peu de temps, mais finalement pas plus de temps que d'autres séquences politiques auparavant. Donc voilà, l'hypothèse Cazeneuve, elle a été aussi agitée par l'Élysée pour essayer de fracasser ce nouveau Front Populaire. Et depuis le début, la tentative de Macron et même la dissolution, c'était ça son calcul.
Et est-ce que
c'était
ça a marché
de diviser la gauche, et il n'a pas réussi.
Ça n'a pas réussi, il n'y a pas eu de fracture. Objectivement, effectivement, à part la grosse colère d'Anne Hidalgo, je n'ai pas entendu de... je veux dire, de soubresauts phénoménaux à gauche autour de cette hypothèse Cazeneuve. J'ai l'impression que ça a fait flop, effectivement, parce que, bah parce que le NFP est uni et a intérêt à le rester. Je veux dire, l'alliance NUPES, l'alliance NFP, ça marche. Ça a fonctionné aux élections. Je vois pas pourquoi est-ce que les partis décideraient de faire volte-face.
Ben, non seulement ça tient contre toute attente, hein, mais moi je pense que Macron, son hypothèse de départ, et c'est comme ça qu'il l'a joué aussi à la précédente élection présidentielle, c'était de se mettre en scène dans une espèce de face-à-face avec le RN. En fait, à la fois, il lui sert de marchepied et en même temps, il met en scène cette espèce de face-à-face où les seules alternatives, ce serait soit lui incarnant une espèce de néolibéralisme autoritaire, etc., soit le Rassemblement national. Donc, soit moi, soit le déluge. Et en fait, le fait que cette gauche réussisse à se mettre d'accord, réussisse à avancer un programme extrêmement sérieux et un programme efficace, c'est hyper important ce que tu disais, Léa, le rapport Draghi. En fait, il dit toutes les politiques de coupe des dépenses dans l'éducation, dans la santé, dans tout ça mène au décrochage économique, en fait. C'est-à-dire que ces politiques-là, elles sont pas seulement injustes, elles sont inefficaces, elles nous plombent, elles plombent l'Europe. Et donc, le fait que la gauche ait réussi à faire émerger cette alternative et à casser ce face-à-face que Macron voulait mettre en scène avec l'extrême droite, c'est un fait politique extrêmement important qui change tout, quoi, qui rouvre à nouveau des chemins possibles.
Naïm ?
Ouais, sur ce que tu disais, Rosa, sur la pression populaire. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait de faille dans le nouveau Front Populaire quand on regarde où en était la NUPES au même moment il y a 2 ans. Et la meilleure des réponses, c'est vous là, c'est tout le public qui est à la fête de l'humanité. Moi, cette fête de l'humanité, j'y mets les pieds depuis que j'ai 15 ans, certains y vont depuis qu'ils sont dans le berceau. Un vendredi soir hier au Village du Monde, je n'ai peut-être jamais vu autant de monde que cette année. Tous les débats, Angela Davis, c'était plein. Le débat entre Lucie Castet, Fabien Roussel, Sophie Binet sur la conquête des classes populaires, il y avait 2 fois plus de monde dehors que dedans. Tout à l'heure au Forum social, ça débordait de monde. Le peuple de gauche, il est uni et il se pose des questions. Il veut comprendre les désaccords, il veut qu'on lui explique, mais il veut ouvrir des perspectives. Et quand on voit le monde qui est à la fête de l'humanité, on se dit que la rentrée sociale, et notamment le 1er octobre, pourra être beau. Et la différence à ce qu'on a connu il y a 2 ans, c'est l'intervention du monde associatif et des syndicats. Il faut que les syndicats rentrent dans la danse, que les travailleurs organisés disent ce qu'ils ont à dire, mais maintiennent la pression sur les partis politiques. Et c'était comme ça le Front Populaire en 1936. Il n'y avait pas que l'alliance avec les radicaux, les communistes et les socialistes. Il y avait les syndicats, il y avait le monde du sport, de la culture. Et tout ce petit chemin, bah, quand on voit qu'il y a peut-être une dissolution dans un an, les municipales plus après l'ancienne, il y a de quoi faire.
Alors moi, j'ai toujours eu une énigme, c'est les députés macronistes. Pour moi, ça a toujours été un peu une énigme, parce que je me suis dit, par exemple, si Lucie Castel avait été nommée Première ministre, ils auraient été plus ou moins dans l'opposition, ça veut dire qu'ils auraient dû écrire eux-mêmes leurs amendements plutôt que de copier-coller ceux des ministères. Et vraiment, je m'interroge en me disant, putain, les pauvres, ça va leur faire bizarre d'être dans l'opposition, ils ne l'ont jamais été. Et je m'interroge aussi sur, justement, la capacité qu'ont les députés macronistes à potentiellement rompre avec Emmanuel Macron d'une manière ou d'une autre. Sur certains sujets, est-ce qu'ils sont capables, par le truchement de Gabriel Attal qui ne s'entend pas avec Emmanuel Macron, est-ce qu'ils sont capables de remettre en cause les discussions de l'Élysée, est-ce qu'ils sont capables de faire des clans en interne? Il y a eu des tentatives de créer des sous-groupes. Alors pour l'instant, apparemment, ils ont créé des boucles WhatsApp. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est pas ouf, mais c'est un début. Je me demande si la cohésion des macronistes va durer, et va durer longtemps, y compris sous Michel Barnier. C'est vraiment pour moi une des énigmes de la fin de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Léa ?
Ah, moi, je pense que ça va péter. Enfin, j'espère en tout cas que ça va péter, parce que franchement, c'est... C'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein, après, on va dire que j'incite à la violence, tout ça, c'est absolument pas ce que j'ai voulu dire.
Non, mais l'année prochaine, Aurélien Taché à l'UMA, pour venir parler de la gauche, de la Macronie.
En réalité, je vois pas comment ça peut tenir, parce qu'en fait, c'est là où on comprend que le nini, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, c'est une vaste blague, mais ça fait, même si ça fait très longtemps qu'on l'avait compris, bien évidemment, mais je me demande même si au sein des macronistes, il y en a pas certains qui vont se dire, mais en fait, on est allé trop loin, là. Genre, stop. Il va falloir que... Bah, je sais pas, je pense à ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont la jambe gauche du macronisme ou je sais pas quoi. Bon, à un moment donné, sortez quoi. Enfin, montrez-vous. Parce que
là,
c'est pas
que
possible.
Ceux qui voulaient partir, ils sont partis là.
Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? C'est la vraie question. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont se dire, effectivement, il va y avoir peut-être des sous-groupes parlementaires? Mais alors ça, j'en doute vraiment. Moi, je pense qu'il y en a qui sont clairement saoulés. Après, on verra. Je pense que ça va être un peu au cas par cas, ouais, en fonction des textes. Mais là, il y a quand même un enjeu législatif très important qui est le projet de loi de finances qui doit arriver bientôt et qui est quand même, voilà, ça va être le vrai sujet, ça va être un vrai test pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette Assemblée nationale en réalité. Mais moi je trouve ça pas inintéressant parce qu'en fait Macron qui est arrivé en 2017 en se disant allez, j'ai un boulevard devant moi, j'ai une Assemblée qui m'est favorable, etc., etc., se disait que finalement il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait tout en outrepassant le Parlement. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Je dis pas que je suis contente de la composition du Parlement actuel, hein, loin de là, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que ça le rattrape un peu, en fait. Et qu'à mon avis, il va se prendre des murs. Il va se prendre un certain nombre de murs, parce que c'est pas possible que ça tienne. C'est pas possible que ça tienne. D'un point de vue mathématique, bref, ça ne tiendra pas. Donc voilà, la question va être... Moi, je pense que ça va vraiment se jouer au cas par cas. Et il va apprendre la démocratie parlementaire, en fait. Il va apprendre à devoir négocier avec des groupes. Il va devoir apprendre à parler avec des parlementaires. Et après, la question va se poser aussi de savoir... Qu'est-ce qui va se passer avec le Sénat? Qu'est-ce que va faire le Sénat dans tout ça? Vraie question. On verra.
En tout cas, il va y avoir de l'ambiance à l'Assemblée. Ça, c'est à peu près certain. Ça a déjà commencé, puisqu'on a appris que Éric Coquerel, le président de la commission des finances LFI, et Charles de Courson, du groupe Liotte, qui est rapporteur général du budget... Déjà, pour moi, ça, c'est un enfer pour Macron, ces deux-là, parce qu'ils ont annoncé qu'ils s'étaient rendus à Bercy pour réclamer sur pièce la présentation des lettres de cadrage des ministères. C'est un chouïa technique, mais c'est une dénonciation très forte du Parlement des manigances du gouvernement qui cachent des choses au Parlement. Il y a une espèce de transparence forcée par ces deux députés-là qui augure des débats absolument passionnés à l'Assemblée nationale. Et je suis comme toi, on est dans une incertitude sur ce qui va se passer pour le budget.
Mais là, tu touches à un point aussi important, parce qu'on sait que le Parlement, et on parle essentiellement de ça, a le rôle de faire la loi. Mais le Parlement a aussi le rôle de contrôler le gouvernement. Et ça, finalement, on en parle assez peu. Ouais. Et le fait qu'il puisse retrouver ce pouvoir, en quelque sorte, c'est quand même assez important en démocratie. Après, le problème, c'est qu'on est face à un exécutif qui ne veut pas entendre le choix du peuple. Et ça, c'est dramatique. Et moi, je ne sais pas comment on va sortir de cette situation. Parce que la réalité, c'est que cette pratique politique qui est en train de s'installer, il est en train de créer une jurisprudence, Macron. Il est en train de créer une jurisprudence en disant « Eh ben en fait, la constitution de la Ve République, on peut l'interpréter comme ça. On peut avoir un parti qui arrive, une union qui arrive de parti majoritaire à une élection et on peut dire, vous savez quoi, c'est pas grave. Moi, je vais nommer un autre Premier ministre d'un autre bord politique. » Mais ça, c'est inédit. Franchement, je pense qu'il faut vraiment, 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 vraiment qu'on se méfie de ce qui est en train de se passer. Parce que hélas, c'est ce genre de pratiques qui peuvent s'installer durablement et qui peuvent mener au pire. Et je ne sais pas comment on va sortir de cette situation politique, sincèrement.
C'est effectivement quelque chose qui est angoissant. Rosa ?
Moi, je pense que Macron fait la démonstration qu'il est engagé dans une forme de dérive autoritaire. C'est pas le seul, ce sont des dérives qu'on constate ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde. Dans le cas de la France, c'est d'autant plus dangereux qu'on est dans un régime, la Ve République, qui donne des pouvoirs exorbitants au président de la République, à un seul homme. Et donc on a un seul homme qui peut décider que, eh bien non, c'est pas l'Assemblée, c'est pas les forces politiques arrivées en tête qui vont tenter de constituer un gouvernement, c'est lui-même qui, par le fait du roi, décide qu'il va nommer un tel ou un tel, qu'il va faire en sorte de poursuivre des politiques qui ont été sanctionnées dans les urnes. Donc on est vraiment, moi à mon avis, dans une crise politique qui est en train de se muer en crise de régime. Et une des grandes questions qui va être posée très vite, enfin dès demain, c'est comment on sort de cette Ve République qui donne trop de pouvoir à un seul homme qui a comme ça le pouvoir de décider de la vie de tout le monde.
C'est effectivement un des enjeux. J'ai une dernière question à vous poser sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que va devenir Lucie Castet? Est-ce que Lucie Castet va rester dans l'antichambre de Matignon?
Qu'on nous la ramène.
Qu'on nous la ramène. Non, mais Lucie Castet, moi, ça m'interroge, parce que c'est un visage d'espoir pour la gauche unie, tant qu'elle est unie, on va en reparler. Est-ce que Lucie Castet a vocation à rester dans l'antichambre de Matignon éternellement? Est-ce qu'elle peut être nommée dans un second temps? Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu cet été. J'ai entendu beaucoup de politiques dire Lucie Castet, bon, ce sera peut-être pas la première ministre, ce sera peut-être la deuxième. Si Barnier se pète la gueule sur son budget, si Barnier se pète la gueule sur un 49-3, peu importe lequel, il est possible que Lucie Castet ait sa chance un peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez, Naïm?
En attendant, elle est là et à la fête de l'humanité, elle est intervenue toujours comme candidate du Nouveau Front Populaire à Matignon. Et moi, je pense que c'est important qu'elle continue à occuper l'espace médiatique, parce que justement, comme ça, les médias qui organisent la grande vie politique ne vont pas appuyer sur les divisions au Bureau national du PS ou ce qui se passe du côté de la France insoumise. Et le NFP paraît toujours rassemblé. Et je pense qu'effectivement, c'est important de montrer face à cette alliance contre nature entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National, que la gauche a une alternative et demain une personnalité capable de bâtir des compromis dans cette assemblée.
Léa ?
Lucie Castet encore ?
Ouais, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi je sais pas, faudrait... Je sais pas, c'est... Moi je pense que c'était déjà une très bonne proposition. Vraiment. Enfin, pour le coup, c'était... Je m'y attendais pas et j'étais là. Ah ouais. Stylé. En vrai, franchement, je trouvais que c'était une super idée. Je ne sais pas ce que ça va... Enfin, déjà, de quoi a-t-elle envie? Ça, c'est vrai, la vraie question. Hein. Peut-être qu'il faudrait lui demander d'abord, elle, de ce qu'elle a envie. Mais comment elle peut jouer un rôle politique actuellement dans cette configuration, très difficile de le dire. Le problème, c'est qu'on sait qu'à gauche, tout le monde a envie de se placer un peu, hein. Il n'y a pas qu'elle. Donc du coup, je ne suis pas sûre que tout le monde ait envie de lui faire vraiment la place qu'elle devrait avoir, si c'est quelqu'un qui est à la tête d'une union, affaire à suivre. Je pense qu'il va falloir ranger quelques égos. Mais moi, j'ai trouvé que c'était, franchement, c'était un super choix. Et j'espère sincèrement qu'elle puisse en moins montrer et qu'on puisse tester, quoi. Je ne sais pas dans quelles circonstances, comment, mais j'aimerais bien.
À voir. Donc tu n'as pas encore déposé le nom de domaine Castet 2027?
Pardon, j'entends.
T'as pas encore déposé le nom de domaine Castet 2027?
Bah, je sais pas, regarde.
Je savais que c'était toi qui l'avais pris.
Non, ça se tient.
Naïm, dernière intervention, Naïm.
Ouais, non, juste... parce qu'on parlait du budget tout à l'heure, mais il faut rappeler qui est Lucie Castet, c'est la porte-parole du collectif Nos Services Publics. Et le 1er octobre, si tout va bien, parce que vu le temps qu'on met à former un gouvernement, normalement, le budget 2025 arrive devant les députés. Et avoir quelqu'un qui médiatiquement porte la parole pour défendre les services publics, les hôpitaux, les enseignants, les policiers de tous les jours, et ben c'est quelque chose d'important. Parce qu'en face, le gouvernement Barnier, il y a une procédure. Il faut savoir que l'Union européenne a ouvert une procédure pour ces déficits excessifs contre la France. Et qu'est-ce qu'on va s'attendre? C'est à des sapes dans les services publics. Parce que le déficit a augmenté de 1 000 milliards depuis 2017 du fait des politiques d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce déficit a augmenté parce qu'Emmanuel Macron a donné des cadeaux aux plus riches. Et en réalité, c'est, on nous prend dans une main, c'est-à-dire l'argent qu'on, que les travailleurs créent, et on nous prend dans l'autre main, c'est-à-dire nos services publics, parce que la part d'argent qui va au capital est toujours plus importante. Et donc avoir quelqu'un qui connaît un petit peu pourquoi les services publics, comment ça fonctionne, et qui peut mener cette bataille culturelle-là, bientôt, dans 3 semaines, je pense que c'est important.
Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre, vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux. On est en direct de la Fête de l'Humanité pour Backseat. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle de 5 mois d'abonnement à la formule numérique de l'UMA pour seulement 5 euros. Vous avez toutes les informations dans le chat, bénéficiez-en. Je vous conseille de vous abonner vu ce qui va se passer dans les 5 prochains mois. Chers amis, vous êtes toujours en direct sur Backseat. Je vous propose qu'on enchaîne avec la séquence suivante. C'est parti pour la vie d'Adèle. Ouais.
Je m'installe. Salut. Oh là là, c'est incroyable. C'est fou. Et abonnez-vous. Je suis abonnée, hein, moi, à l'UMA. Et je vous rappelle que je travaillais pour Juppé. Donc vraiment... Ça va? Salut les copains. Salut le public en vrai. Salut le public de Twitch. Salut la fête de l'UMA. Ça va, les gens de gauche, dans un pays de gauche, avec un Premier ministre de... Avec un Premier ministre. On se concentre sur le positif. C'est important, le positif. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 20 ans. Les 20 ans. Je les rajeunis. Les 120 ans de l'UMA. 120 ans d'humanité. Bravo, l'UMA. Bon, alors après, l'UMA fête ses 120 ans. Est-ce que c'est pour ça que vous commencez à faire des unes qui ressemblent beaucoup au magazine Challenge? Je m'interroge. Mais c'est quelle patronne du CAC 40 ici? Ah, ben non, c'est Sophie Binet. Je trouvais ça chelou aussi que Anne Levergeon défende l'augmentation des salaires. Non, et vous avez aussi le journal, non, le journal. En fait, c'est marrant parce que pour les 120 ans de l'UMA, vous piquez les jeux de mots de Libé en une. Voilà. Faites-nous rêver, mais je vous prends au mot, je vais vous faire rêver. Attention. Tour de magie, j'ai Paris Match. Sérieux? Avec moi, Paris Match. Et oui, non, je vais vous faire rêver avec Michel Barnier.
Ils ont vraiment sorti ça?
Ah oui, c'est la une de Paris
Match. C'est la une, c'est Barnier et sa femme.
Ah oui, tout à fait, pardon, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Absolument, t'étais pas...
Ouais, magnifique. D'ailleurs, est-ce que vous ne trouvez pas que la femme de Michel Barnier a une tête à s'appeler Michel Barnier, avec un E?
Ouais, c'est vrai.
Michel Barnier,
ouais, exactement.
Pardon. C'est elle qui fait des blagues.
Non, c'est super, pardon. C'est exactement le moment où... Est-ce que Manu, il n'aurait pas géré ça en mode bonneto, tour de passe-passe? Alors pour que tout le monde voit, je vais mettre comme ça. Tu sais, en bas des escaliers de la butte Montmartre, petit truc comme ça. Tu sais, genre, il a fait... vous voulez quoi comme Premier ministre? Une femme jeune de gauche? Tu suis la femme jeune de gauche? Tu suis la femme jeune de gauche, elle est là. Ouais, elle vient du monde, du monde civil, de la société civile. Hop, 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 hop. Voilà, c'était mieux. Voilà, je sais pas si ça rend bien. Okay. On rejoue.
Ouais.
Non, parce que je peux encore dissoudre. Et le résultat sera le même. Voilà, ça c'était... Non, le truc important, c'est qu'est-ce qu'il y a sous le gobelet? Eh bien, sous le gobelet, oui, on ne pouvait pas utiliser la vidéo. Donc, on a pris un truc très utile, c'est-à-dire une petite figurine de Michel Barnier.
Sérieux?
Qui va devenir la nouvelle mascotte de Backseat. Petite figurine qui va venir rejoindre celle d'Usul.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il va être très heureux. Réalisé par Red, qui est modo sur cette chaîne, et peintre pro, @Red, sur le chat va vous donner toutes les informations. Allez le follower. Force à lui. Non, c'était pas mal parce que pour les 50 ans de Libé, on avait fait cette petite miniature d'Usul. Pour les 120 ans de l'UMA, on fait une miniature de Barnier. Le prenez pas personnellement. C'est faut le voir vraiment comme un gris-gris porte-bonheur, parce que Michel Barnier rassure. Non, c'est vrai que c'est le mot que tout le monde emploie, hein, dernièrement. Michel Barnier, il est rassurant. Et c'est vrai que c'est rassurant quand un professionnel a beaucoup d'expérience. Pour ton triple pontage, t'es content que ton cardiologue, il en est sous le bisturi, c'est clair. Mais à partir de quel âge tu veux plus que ton chirurgien t'opère, tu vois? Mich-Mich, il commence peut-être à avoir de la rouille sur le scalpel. Je ne sais pas, c'est une question. Le mec est élu depuis 1978. Ça veut dire qu'il a été élu député 4 ans avant la création du Minitel. Il est Premier ministre 20 ans après sa disparition. Enfin, du Minitel, hein. Pas de lui-même, parce que sinon ça voudrait dire que c'est un fantôme. Et même s'il en a la couleur, il ressemble un peu à Beetlejuice, un peu. Tu crois que Macron, il a fait ça, il a fait Barnier, Barnier, Barnier. Il l'a fait 3 fois, je pense. Il faut avoir la ref, hein, ça. Et en fait, en réalité, je pense que le président, il est plutôt allé chercher le Premier ministre en 1978. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. En fait, on est dans Retour vers le futur. Marty McMacron, qui avait déjà fait un aller-retour pour aller chercher Brigitte. Bon. Ils sont méchants. Ils sont pas sympas. Hein. Après, il l'avait apprise dans le passé, mais sur Netflix, apparemment. C'est un autre délire. Mais bref, on est dans Retour vers le futur du passé. Hé, hey Doc, on devrait pas faire gaffe à la démocratie. Là où on va, Marty, on n'a pas besoin de démocratie. Et d'ailleurs, Marty Macron a perturbé la trame temporelle. Hein. Sur les plateaux télé, qui vient parler de Barnier ? Roselyne Bachelot, Brice Hortefeux, Jean-Pierre Raffarin, qui était lui-même Premier ministre il y a 20 ans. Quoi. C'est... V'là les vieux PNJ. Pour les anciens, PNJ, personnage non jouable, hein, terme emprunté aux jeux vidéo, et non peine à jouir.
Oui, aussi.
Ça marcherait aussi.
Ça marche.
D'ailleurs, François Hollande est député, Laurent Wauquiez aussi, on est en 2005, ça n'a aucun sens. Mais le plus gros élément de disruption du convecteur temporel, pour moi, c'est le retour de Dominique de Villepin. À gauche.
Mais ça va pas du
non,
tout.
Mais vous avez vu la trend du mec alors, sur les boucles NFP.
Ouais, c'est clair.
Genre, même Philippe Poutou voulait qu'il soit Premier ministre. Genre, c'est... Et il a été hein, Premier ministre d'ailleurs, mais sous Jacques Chirac, grand président de gauche, hein, évidemment. Et du coup, De Villepin est devenu une des restas de la fête de l'UMA. Vous le recevez demain. Genre, comme Sophie Binet, patronne de la CGT, qui est donc notre invitée ce soir. Sophie Binet, qui a démarré sa carrière militante en manifestant contre le CPE, le contrat première embauche, qui était une brillante idée de. Dominique de Villepin. Mais si la droite a le vent en poupe, une seule question importante se pose à mon avis, c'est que se passe-t-il du côté de los republicanos? On n'a pas la musique, mais on y va. Alors que le clan a été décimé après la dissolution imposée par l'affreux El Macron et déchiré après le départ de Ricky Ciotito du côté Oscuro, s'est jouée une terrible bataille de communication. Comment désormais nommer les entités du cartel ? Ricky, parti à droite toute, a nommé son clan « Adroita ». Que c'est à droite ? Il y aura des jeux mots de pourri en saison 4. Lorenzo Wauquiez, qui a guidé l'Auvergne, pour prendre la tête des troupes de l'Assemblée nationale, leur a donné, quant à lui, le nom de la Droita Republicana. Alors que Los Republicanos... Ricky, furieux, a répliqué en créant le collectif La Unión de las Droitas de la República. N'est-ce pas une décision un peu gauche? Alors que Los Republicanos se cherchait un nom contre toute attente, El Macron les fit renaître de leurs cendres et prenant comme bras droit celui dont plus personne n'avait de nouvelles depuis qu'il avait été envoyé pour négocier avec les Anglais. Miguel Barniero, dit El Negociador del Brexito, mais qui lui aime à se faire appeler El Señor des JO de Savoie ou El Paisano de la Montaña, alors que ça n'a aucun sens puisqu'il a passé toute sa vie dans les arcanes du pouvoir et qu'il devrait plutôt s'appeler la parachique de la droite. Miguel finira-t-il par nommer des ministros? Los Republicanos devront-ils changer de nom? L'épouse d'El Macron, Lolo Brigitta, continuera-t-elle sa carrière au cinéma? Vous le saurez en suivant la suite des Los Republicanos ou un autre nom, ça on verra. Alors pour conclure, avant de vous laisser, je voudrais citer Bruno Le Maire.
Qui a lui-même cité Michel Sardou.
Qui, dans son discours de départ du ministère, absolument, a, je cite, ouvrez les guillemets, attention, comme dirait Michel Sardou, je vous aime, mais je pars. On a eu de la chance parce que dans la discographie de Michel Sardou, ça aurait pu partir sur du « je ne m'enfuis pas, je vole », alors que il vole pas, Bruno, juste il perd l'argent des Français. Il y avait aussi... Il y avait aussi « à faire pâlir tous les marquis de Sade ». Ça fonctionne, mais dans ses bouquins. Et enfin, « ne m'appelez plus jamais France ». Gênant mais réaliste, puisqu'il faut désormais l'appeler Suisse. Voilà. Il va devenir prof à Lausanne. Voilà, pour info. Et je sens son départ vous rend triste. Hein. Et peut-être qu'on le retrouvera dans Los Republicanos, qui sait. Merci les amis.
Merci beaucoup Adèle Barbers. Adèle, c'est quoi ton actu à la rentrée là ?
Ah ouais, j'ai une grosse actu à la rentrée, j'ai un sujet et ça sort ce soir. Je vais aller faire des blagues au théâtre Le République à Paris le vendredi 4 octobre, c'est bientôt, à 21h30. Alors, prenez vos places, là on est en train de lancer le lien pour les billets dans le chat. Mais surtout, il y a un promo code et c'est Backseat. Tapez Backseat.
Sérieux?
Et vous avez... Si, ouais, j'ai fait un promo code Backseat.
Trop
pour
bien.
Les places pour venir me voir au théâtre Le République le 4 octobre. Merci les amis.
Merci Adèle. Merci beaucoup Adèle, ça va toujours le public de la fête de l'humain. Vous êtes exceptionnels, merci de rester avec nous, merci d'être là. On continue cette émission extraordinaire avec une invitée politique de premier plan. Elle va faire l'actualité de cette rentrée politique. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Vous pouvez l'applaudir, Sophie Binet, qui nous fait l'immense honneur d'être notre invitée ce soir sur le plateau de Backseat, en direct de la fête de l'Humain, ici, à l'Agora de l'Humanité. Bonsoir, Sophie Binet, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, je pense que je peux dire, au vu des applaudissements, je pense que je peux dire bonsoir, camarade.
Sophie Binet, je le disais, vous êtes la secrétaire générale de la CGT. C'est quoi votre relation avec la fête de l'Humain ? Vous y venez chaque année, depuis longtemps ? La fête de l'Humain, vous y venez chaque année, depuis longtemps ou pas ?
Ouais, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein.
désolé.
Donc le rendez-vous incontournable de la rentrée, c'est juste un lieu unique et une fête incroyable. Quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première venue à la fête de l'Humain ?
Ouais, malheureusement. En fait, ça a plutôt mal commencé avec la fête de l'Humain.
Pourquoi ?
Puisque mes premières venues, en fait, c'était quand j'étais membre de la direction nationale de l'UNEF. Et donc, on avait un stand sur la fête. Il y a toujours un stand, d'ailleurs. Et donc, on n'avait pas d'argent. Je crois que c'est toujours le cas. C'est un peu le principe quand on est militant étudiant. Et donc, pour remplir les caisses de l'UNEF, il fallait vendre le plus de saucisses et de merguez possible pendant la fête. Et donc, on faisait du dumping. Voilà, c'était sur le stand de l'UNEF qui avait les saucisses les moins chères. Et du coup, je passais 2 jours sur le barbecue. Quoi. C'était insupportable. Donc là, maintenant, ça va beaucoup mieux.
Est-ce qu'ils vendent toujours des saucisses et des merguez ?
Eh ben, je crois pas.
Cette année, je sais. Il y en a quand on bouffait des saucisses de merguez de l'UNEF ou pas ?
Je crois pas. Il n'y a plus de barbecue. C'est la mode vegan maintenant.
Ah, c'est végé. Ouais. Ah, bah ouais. Non, mais je comprends, voilà.
On peut applaudir.
Il faut vivre avec son temps, c'est extraordinaire. On a beaucoup de questions à vous poser, Sophie Binet, sur cette rentrée politique et la rentrée sociale notamment. Rosa, tu avais une question notamment.
Alors, sur la rentrée sociale, vous appelez la CGT à une grosse mobilisation le 1er octobre. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les mots d'ordre? Qu'est-ce qui va se passer le 1er octobre?
Le 1er octobre, c'est la réponse est donnée. C'est ce qui va se passer, en fait, c'est ce que nous toutes et tous, on en fera. Et donc l'objectif, c'est d'avoir la plus grosse grève et le plus grand nombre de manifestants. Pourquoi ? Parce que d'abord, le 1er octobre, ce qu'on veut gagner, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Le 1er octobre, c'est le match retour de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a imposé sa réforme en force. il l'a payé par une sanction dans les urnes. Et donc, c'est à cause de son passage en force, ou grâce à son passage en force, ça dépend, sur la réforme des retraites, qu'il a été sanctionné. Et maintenant, il y a une majorité de députés qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites, mais ça n'arrivera pas tout seul, ça n'arrivera seulement si on se mobilise très largement. Et donc, c'est à notre portée, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très nombreux et nombreuses en grève le 1er octobre. Deuxième chose qu'on va chercher... Deuxième objectif, le 1er octobre, les salaires. Les salaires, c'est une catastrophe. Nos salaires décrochent face à l'explosion des prix. Il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui ne bouclent pas leur fin de mois, des salaires qui sont déconnectés de nos qualifications. Et donc, le 1er octobre, il faut chacune et chacun dans nos entreprises, vous vous réunissez avec vos collègues avant, il faut définir l'augmentation de salaire qu'on va chercher face au patron. Et si l'augmentation de salaire n'est pas au rendez-vous, on se met en grève le 1er octobre et évidemment on continue après jusqu'à ce qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent sur les salaires. Donc c'est obligatoire d'ouvrir des négociations chaque année quand il y a un syndicat dans une entreprise. C'est pour ça qu'il faut créer des syndicats dans toutes vos entreprises, parce que ça crée des droits. Et donc le 1er octobre, on va interpeller les patrons, faire grève, exiger que tous les patrons augmentent les salaires, et puis évidemment que le gouvernement augmente le SMIC, parce que je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, mais on se fait enfumer là sur la question de l'inflation. L'inflation cette année est de 1,9%. C'est la pire nouvelle pour le monde du travail qu'il puisse y avoir. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2%, il y a une augmentation automatique du SMIC. Or là, on perd, il y a des prix qui augmentent vraiment de 1,9%, pourtant il n'y aura pas d'augmentation du SMIC, donc ça fait une perte nette de pouvoir d'achat, et donc ça fait partie des revendications auprès de Michel Barnier. Là, il a les pouvoirs d'augmenter le SMIC et de faire un coup de pouce au SMIC, évidemment 1,9%, mais beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on ne vit pas avec le SMIC, notamment pour toutes les femmes, c'est une majorité de femmes qui sont des SMICardes, et qui ne sont même pas au SMIC mensuel, puisque 30% des femmes sont à temps partiel, et donc avec un salaire mensuel bien loin du SMIC mensuel. Donc deuxième chose, le 1er octobre, les salaires. Troisième chose, les services publics. Je pense que tout le monde sait que là, sur nos services publics, on est à un point de bascule, ça n'est plus possible. En cette rentrée, il y a 1000 élèves handicapés qui ne peuvent pas être scolarisés parce qu'il n'y a pas d'AESH, donc les personnes qui prennent en charge les Sophie. Élèves. Et s'il n'y a pas d'AESH, c'est parce que les emplois ne sont pas créés, mais surtout parce que ces emplois sont extrêmement précaires et parmi les plus mal payés, et comme par hasard, c'est à 90% des femmes. Donc nos écoles manquent de moyens, il y a plus des milliers de classes qui, dès la rentrée, n'ont pas d'enseignantes ou d'enseignants. Nos universités, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. La situation dans les universités françaises, c'est une honte. On est à un niveau de paupérisation de l'université, Sophie, de la recherche française qui est honteux. Et puis, parler de la question de la santé. La santé, ça fait des années que les soignantes et les soignants appellent au secours. Là, on meurt dans les hôpitaux. On meurt dans les hôpitaux sur des brancards aux urgences. Et donc, les personnels de santé, les soignantes et soignants, ils seront nombreux en grève le 1er octobre parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait 9 jours ou 10 jours qu'il a été nommé, il a passé son temps à voir des membres des Républicains. On a l'impression de se trouver tous
justement, Sophie Binet, on va avoir le temps d'aborder tous ces enjeux. Une question qui est beaucoup revenue de la part de beaucoup de jeunes, très remontée contre la nomination de Michel Barnier. Est-ce que ce n'est pas trop tard le 1er octobre ? Le gouvernement sera nommé, Barnier sera Premier ministre depuis a suffisamment de temps pour faire ses premières moutures de budget. Est-ce que c'est pas trop tard le 1er octobre ?
Bah non, justement, parce que le 1er octobre, le budget arrive à l'Assemblée nationale et donc c'est là où la bataille sur ce budget qui va être central commence. Et cette bataille, elle est centrale parce que c'est là que se joue le financement de nos services publics. Et donc sur la santé, ce que je voulais vous dire, c'est que Barnier, donc depuis 9 jours, il passe son temps, il voit que des vieux, des Républicains. Par contre, s'adresser aux syndicats, aux Françaises et aux Français, etc., rien du tout. Et on voit que non seulement il est issu du parti qui a fait 5% aux élections législatives, mais en plus, son camp n'est même pas complètement rassemblé, quoi. Donc voilà. Mais du coup, tout ça pour dire qu'il a fait un déplacement sur le terrain, dans un hôpital. Donc moi, je me suis dit, bon signe, il va dans un hôpital. Pour dire quoi aux soignantes et aux soignants ? Il va falloir faire des économies. Donc, vraiment, il y a un problème.
Voilà. Le budget, il est central pour nos services publics et il est central parce que c'est dans le budget qu'on peut gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Ça passe par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Merci Sophie Binet. Naïm, tu avais une question.
Pour compléter la question de Jean, moi j'aimerais bien que tu nous racontes en fait comment ça se construit une mobilisation sociale. Pour faire clair, est-ce que tu as un bouton rouge sur ton bureau où tu appuies et la grève générale prend dans toutes les entreprises? Ou comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire des tournées dans les boîtes? Enfin, voilà, explique-nous un peu comment se construit une mobilisation.
Eh bien, ouais, j'adorerais avoir ce bouton rouge, mais malheureusement, il n'existe pas. Alors malheureusement, ou peut-être heureusement, parce que ça force aussi à avoir des constructions démocratiques par en bas. Et c'est ça qui fait la force du syndicalisme, c'est qu'on n'est pas dans le délégataire. Il n'y a personne qui, depuis Montreuil ou ailleurs, peut décider tout seul de dire à partir de maintenant, tout le monde doit se mettre en grève. C'est chacune et chacun qui construit la mobilisation d'en bas. Et donc c'est pour ça qu'on annonce la date du 1er octobre longtemps à l'avance, pour que toutes et tous, vous ayez le temps de faire des assemblées générales avec vos collègues pour organiser la mobilisation avec vos collègues et décider des modalités. Et s'il y a des endroits où vous êtes en capacité de commencer le 1er octobre et de continuer le 2 octobre, évidemment qu'il faut le faire, mais c'est comme ça que ça marche. Moi, je ne peux pas dire il faut faire une grève générale à partir du 1er octobre et la reconduire jusqu'au 30 novembre tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction. Ça ne marche pas. Par contre, ça se construit sur les lieux de travail et pour ça, il faut qu'il y ait plus de syndicalisation sur tous les lieux de travail.
Ariane.
Oui, sur cette question de justement pousser les gens à se syndiquer. Par rapport à il y a quelques années, il y a beaucoup moins, par rapport aux années 60, 70, il y a beaucoup moins de personnes qui sont syndiquées, notamment dans les campagnes où avant la CGT était très puissante, et aujourd'hui à cause de plein de choses, l'étalement urbain, la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses, la désindustrialisation, il y a beaucoup moins de lieux, la fermeture des lieux de sociabilité aussi, il y a beaucoup moins de lieux où peuvent exister les syndicats. C'est quoi votre stratégie pour essayer de reconquérir ces lieux-là?
Notre stratégie, c'est d'abord d'avoir un discours volontariste et de dire en France, on a une forme de syndicalisation par procuration. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, une large majorité de salariés, qui trouvent que le syndicalisme c'est bien, que ce que fait la CGT c'est bien, mais qui ne se syndiquent pas. Il faut vraiment, quand on est d'accord avec ce que font les organisations syndicales, il faut se syndiquer, parce que sinon on n'a pas le rapport de force. Donc un des enjeux pour nous, c'est d'avoir une stratégie beaucoup plus volontariste. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de militantes et de militants de la CGT qui sont dans l'autocensure en disant on n'est pas des vendeurs de cartes, on ne fait pas dans le commerce, etc. Et qui disent les gens, s'ils veulent se syndiquer, ils vont toquer à la porte du local syndical, etc. Sauf que ça, c'est une erreur. C'est beaucoup moins un réflexe aujourd'hui de se syndiquer et on a besoin, nous, d'aller chercher les salariés.
Mais vous savez aussi que c'est une question de perception. Je pense aux jeunes. Beaucoup de jeunes rejettent l'adhésion au parti. Ils n'aiment pas trop ça. Le vote, c'est pas trop leur truc. L'adhésion à un syndicat, ça leur paraît aussi un peu vieillot. Il y a peut-être aussi une question de perception, d'image, de manière de communiquer. Même si la CGT a eu des moments très modernes sur les réseaux sociaux. On en avait parlé sur une précédente interview à Backseat. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que les jeunes arrivent en masse à la CGT ou est-ce que ça reste un truc vieillissant?
En fait, je pense que le problème, c'est pas forcément l'image, parce que quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, on voit que là où la CGT est la plus populaire, c'est chez les jeunes et chez les moins de 30 ans. Le problème, c'est...
Ouais, mais sans
donc,
y adhérer,
on vous attend, camarade.
Bah, t'en
le
adhérer,
problème,
c'est,
c'est qu'effectivement, il y a un écart entre ce niveau de popularité et le fait de se syndiquer. Il y a des raisons objectives. Quand on est jeune, on est plus précaire. Quand on est jeune, on est plus confronté à de la discrimination syndicale. Quand on demande aux gens pourquoi ils ne se syndiquent pas, il y a 40% des gens qui disent que c'est le premier motif à cause de la discrimination syndicale. Et le problème, c'est que moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, il n'y en a pas de la discrimination syndicale. Malheureusement, il y en a et il y en a beaucoup trop. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la discrimination syndicale, comme on la connaît, on sait s'organiser pour la combattre et on sait vous accompagner pour avoir des stratégies face à votre employeur pour vous protéger. La meilleure protection, c'est de se syndiquer collectivement, de réfléchir avec ses collègues, tous et toutes ensemble. On s'organise, on lève la tête face au patron.
Rosa.
Et le dernier point, dernier point sur la question d'image par rapport à ce que tu dis. En fait, je pense qu'il y a un point sur lequel on n'est pas encore bien compris.
c'est sur la nature du syndicalisme. Moi, ce que je trouve génial à la CGT, c'est que la CGT, c'est tout sauf le délégataire, en fait. Le fait de se syndiquer à la CGT, c'est pas pour soutenir des idées, soutenir une personne, soutenir des actions d'en haut, c'est pour agir soi-même avec ses collègues, décider de ses actions, décider de ses revendications, prendre son avenir en main, prendre sa vie au travail en main. Et ça, c'est juste génial. Et il n'y a aucun autre lieu que le syndicalisme où on a cette capacité de décision et cette capacité à reprendre le pouvoir sur son travail. Moi, quand je me suis syndiquée, moi, mon métier, c'est d'être CPE en lycée professionnel. Et quand je me suis syndiquée avec mes deux collègues. Du coup, les trois, on était syndiqués. Et ça nous a permis de reprendre la main et de dire, bah non, nous, on ne travaillera pas comme ça, on va travailler comme ça. Parce qu'on pouvait s'afficher, s'affirmer face à notre chef et dire, bah non, les choses, et face aux profs aussi, parfois on avait quelques petits conflits avec les profs, on va travailler comme ça maintenant. Et ça, c'était un moment le plus émancipateur pour moi dans mon travail.
Rosa ?
Oui, Sophie, on était très très nombreux, je pense, ici, dans les rues, au moment de la lutte contre la réforme des retraites. On était des millions dans les rues, il y a eu énormément de grèves, de boîtes où des grèves ont été conduites, etc. Il y avait une intersyndicale unie, qui est restée unie jusqu'au bout. Et pourtant, à la fin, Macron, le gouvernement Borne, sont passés en force avec le 49-3 et cette réforme qui était rejetée par une majorité de Français est quand même passée. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Quelle leçon est-ce que la CGT en tire ? Qu'est-ce qu'il a manqué pour créer, construire un rapport de force suffisant pour faire plier le gouvernement à ce moment-là ?
Bah d'abord, trois choses. La première chose, c'est que c'est pas notre mobilisation qui n'a pas été au niveau. Le problème, c'est le gouvernement. Il faut bien avoir conscience que dans n'importe quelle autre démocratie du monde, on aurait gagné. Et d'ailleurs, c'est tous nos camarades internationaux nous ont dit « Mais vous, les Français, vous êtes hallucinants. Vous êtes en capacité de faire des mobilisations incroyables. Il n'y en a aucun qui est en capacité de faire des mobilisations aussi fortes. Nous, on aurait fait deux jours comme ça, on aurait gagné. » Donc, il y a un problème démocratique en France qui est notamment lié à cette 5e République qui permet au président de la République d'avoir des pouvoirs beaucoup trop exorbitants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comment, malgré la 5e République, on peut gagner, parce qu'on peut gagner, eh bien, il aurait fallu qu'on soit encore plus de grévistes. Et le problème, c'est le basculement après le 7 mars. Vous vous souvenez, le 7 mars, l'intersyndical appelle à mettre la France à l'arrêt. C'était encore une très grosse journée. Et nous, après le 7 mars, la stratégie de la CGT, c'était de partir en reconductible. En plus, ça tombait bien. Après le 7 mars, c'était le 8 mars, la journée internationale droit des femmes. Et le 9 mars, il y avait une journée des jeunes. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a quelques secteurs qui ont pu partir en grève reconductible et qui ont fait 50 jours de grève reconductible, par exemple, dans l'énergie, dans l'industrie du verre et de la céramique, chez les éboueurs, chez les dockers, dans certains endroits des transports, notamment chez les cheminots, bref. Donc, on peut les applaudir. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas été en capacité de l'étendre suffisamment. Ils sont restés trop isolés. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés trop isolés ? Parce que ces secteurs qui sont partis, moi, ça ne m'étonne pas. Là, pour le coup, je ne vais pas dire j'ai un bouton rouge, mais je le savais, parce que ce n'est pas n'importe quel secteur. C'est les secteurs dans lesquels le taux de syndicalisation est le plus élevé, en fait. Il n'y a pas de hasard. Les secteurs dans lesquels la CGT est la plus implantée, où il y a des taux de syndicalisation élevés, on peut construire des mouvements de grève durs et dans la durée. Le problème, c'est qu'il y a trop d'endroits, 40% des entreprises privées dans lesquelles il n'y a pas de syndicat. Quand il n'y a pas de syndicat dans son entreprise, faire grève, bah, ça reste très théorique. Et puis, quand il y a les taux de syndicalisation, ils sont très faibles, c'est pas évident de partir sur des grèves majoritaires qui s'inscrivent dans la durée. Donc, la leçon, c'est qu'il faut vraiment renforcer le syndicalisme dans notre pays. C'est pas possible que ça continue comme ça.
Et merci beaucoup aux camarades Samuel Etienne qui vient de nous raid. Voilà, c'est sympa. Merci Sam. Bienvenue à la fête de l'UMA, Sam. On est toujours en direct avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Léa, tu avais une question.
Oui, toujours dans cette perspective, justement, Rosa parlait du constat que le gouvernement n'a pas plié face à une mobilisation qui pourtant, pour moi, c'était pas un échec. Hein. Ça n'a pas marché, vous avez la ref. Pour moi, ça a été une véritable réussite parce que c'était assez inédit de voir comment, effectivement, déjà, c'était la première. Enfin, depuis des années, il n'y avait pas eu cet intersyndical, donc c'est quand même assez beau pour être souligné. Il y a eu des alliances aussi qui ont été faites, avec notamment des associations féministes, avec la nécessité de porter une grève qui va au-delà des moyens de production, mais aussi au niveau des moyens de reproduction. Première question, est-ce que vous appelez à une grève des moyens de reproduction et une grève féministe au 1er octobre? Ou est-ce que c'est uniquement une grève des salariés? Vraie question. Ou aussi grève des femmes, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas chercher les enfants à l'école? Est-ce qu'on arrête de faire à bouffer? Est-ce qu'on arrête de laver le linge? Ça, c'est une question. Et c'est un moyen qui fonctionne très bien. On a vu en Argentine, les féministes se sont alliées et ont fait une grève de la reproduction. On a vu à quel point ça a eu un impact très fort dans la société, pour notamment sensibiliser aux questions des violences et des inégalités. Et deuxième question, toutes ces structurations du mouvement, ces alliances qui ont été faites, toutes ces semaines, tous ces mois, comment vous allez pouvoir capitaliser là-dessus pour cette mobilisation du 1er octobre ?
D'abord, sur la question de la grève féministe, ça fait quasiment 10 ans que la CGT travaille avec les organisations féministes pour faire du 8 mars une grève féministe. C'est très important parce que le 8 mars, c'est pas la Saint-Valentin ou la fête des mères, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Chaque 8 mars, la mobilisation franchit un cap. Et je crois qu'il faut, là, d'ores et déjà, se dire que le 8 mars 2025, il faut que ça soit un raz-de-marée, parce que sinon, il y a un risque de tournant réactionnaire dans notre pays. On verra quelle sera la situation du gouvernement, mais en tout cas, c'est extrêmement inquiétant. C'était quoi la deuxième question ?
Sur la structuration du mouvement.
Ah, sur l'unité syndicale ?
Non, au-delà même, les alliances qui ont été créées pendant toutes ces périodes de mobilisation contre la réforme des retraites, comment vous allez pouvoir capitaliser sur cette mobilisation pour faire en sorte que celle du 1er octobre soit aussi forte ?
Moi, je partage tout à fait le fait de dire faut surtout pas se dire que la mobilisation contre la réforme des retraites, c'était un échec. On a gagné des choses très importantes. Et donc, pour capitaliser, d'abord, il faut que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés se syndiquent. Et puis, il faut que cette unité qui a fait notre force, on puisse l'inscrire dans la durée. C'est la raison pour laquelle la CGT se bat pour que l'intersyndicale, elle continue à se réunir, à fonctionner. Et moi, je suis très contente que là, l'intersyndicale, elle se réunisse encore. Après, tout le monde n'appelle pas à ce stade pour le 1er octobre. J'espère que ça va bouger. Mais au lendemain du 1er octobre, on va se revoir et on aura des initiatives unitaires encore, à l'image de le 1er mai, toutes les organisations syndicales n'appelaient pas au 1er mai. Le lendemain du 1er mai, on s'est tous retrouvés et on a combattu ensemble la réforme de l'assurance chômage qu'on a réussi à enterrer. Et sur cette intersyndicale, en fait, c'est la première fois dans l'histoire sociale qu'on a une intersyndicale qui dure aussi longtemps.
Ouais, bah ouais.
Donc, c'est déjà une victoire de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Naïm, vas-y.
Ouais, moi, je voulais peut-être pour conclure sur la question de la réforme des retraites, un peu le revers de la médaille. Alors, à l'Humanité, on a beaucoup écrit sur la répression antisyndicale. On l'a documenté assez longuement. On a mis des hommes et des femmes en valeur, mais je crois qu'aujourd'hui il y a 1000 syndicalistes CGT, militants et dirigeants qui sont en proie à des procédures, pas de licenciement, des procédures judiciaires ou de disciplinaires dans les boîtes. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi du temps politique que nous vivons et concrètement comment cela impacte une organisation de lutte comme la CGT ?
Oui, c'est un énorme problème. Donc, je parlais justement de toutes celles et ceux qui étaient partis en grève reconductible pendant près de 50 jours, notamment les camarades de l'énergie. Et effectivement, il y a une répression syndicale majeure depuis la réforme des retraites, puis de 1000 procédures en justice contre les militantes et militants, et puis plein de procédures disciplinaires par les employeurs. Et ça montre qu'aujourd'hui, on est dans un moment où il y a un virage autoritaire. On est dans un moment où pour le néolibéralisme, la démocratie est un problème. Pourquoi ? Parce que si on laisse jouer la démocratie, on fait un référendum, la réforme des retraites, elle est abrogée immédiatement. Faut qu'on ait conscience. Il faut, parce que être militant, lutter, c'est dur, parce qu'on veut changer le monde qui est tellement injuste et tellement dangereux avec la catastrophe environnementale, on veut le changer, donc on place la barre haut. Donc c'est dur, parfois on peut déprimer, moi j'avoue, parfois aussi j'ai des moments de passage à vide. Mais c'est important, nous, de regarder à quel point on est fort et de capitaliser sur notre force. Le fait qu'aujourd'hui, pour le capital, pour le néolibéralisme, la démocratie soit un problème, ça montre qu'ils sont totalement minoritaires. Auparavant, c'était pas ça.
Quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, il a tout de suite été présenté comme un fin négociateur qui a réussi à négocier le Brexit, un homme de compromis qui saura qui saura parler aux syndicats. J'ai entendu un journaliste dire ça. Moi, ça m'a gonflé, ce genre d'expression un peu à la con. Mais je me dis qu'il y a quand même des personnes qui sont un peu éloignées de la politique, qui comprennent peu le fonctionnement justement du dialogue social et qui peuvent se dire « Ah oui, effectivement, Michel Barnier, c'est quand même un grand monsieur, peut-être qu'il saura mettre tout le monde d'accord. » Qu'est-ce que vous pourriez expliquer ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui connaît peu la politique et qui connaît peu le paysage syndical ?
Écoutez, nous, on est factuel et on juge sur pièce et... Même à 73 ans, on peut encore changer d'avis. Ça, je pense qu'il faut se dire ça. Là, de façon factuelle, depuis les 9 jours qu'il a été nommé, il n'a toujours pas parlé au syndicat. Donc déjà, ça, c'est un premier indicateur inquiétant. Et puis c'est ensuite, moi, c'est déjà un très mauvais signe. C'est extrêmement inquiétant. Il passe son temps juste à parler à sa famille politique sur leur nombril. Et on a l'impression d'être toutes et tous projetés dans un congrès de l'UMP géant, enfin, ou des LR, maintenant ça s'appelle comme ça, alors qu'ils ont fait 5% aux élections législatives. Donc c'est vraiment complètement lunaire comme ambiance. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire à Michel Barnier, c'est... Nous, on est disponible pour négocier. J'ai plein de stylos CGT BIC produits en France à lui proposer pour signer l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le financement de nos services publics, la réindustrialisation du pays. On jugera sur pièce.
Ariane.
Cette rentrée, elle a été marquée par deux affaires extrêmement violentes qui étaient une nouvelle secousse dans le mouvement MeToo. D'abord le procès Mazan et l'affaire de l'abbé Pierre, qui tous les deux ont été impressionnants par leur ampleur, par le nombre de victimes du côté de l'abbé Pierre et le nombre d'agresseurs du côté du procès Mazan. On a vu que les deux, ça mettait à jour encore une fois le caractère vraiment systémique et la solidarité qui se crée autour des agresseurs et qui empêchait la parole des victimes d'être entendue et que des choses concrètes soient mises en place pour empêcher ce genre de choses. Comment ça a été reçu ces affaires à la CGT et qu'est-ce que peut le syndicalisme dans la lutte contre les violences faites aux femmes et plus généralement dans les luttes féministes ?
D'abord, à la CGT, en fait, depuis 1945, on a des collectifs féministes dans nos fédérations, dans nos unions départementales. On a une organisation spécifique sur les questions féministes et droits des femmes. Et ensuite, moi, ce que je trouve très intéressant avec ces deux affaires, c'est d'abord qu'enfin, on en parle, parce qu'il y a quelques années, je pense que ça ne serait même pas sorti, notamment sur la question de l'abbé Pierre. Donc, un, on en parle. Et deux, en fait, c'est très intéressant parce que ça montre que c'est pas vrai que les violences sexistes et sexuelles, c'est le fait de pervers isolés ou de monstres. L'abbé Pierre n'est pas un monstre, c'était même une icône jusqu'à il y a très peu de temps. Ça montre que, et j'ai oublié son nom, le violeur en série,
Dominique Pellicot,
voilà, c'était un monsieur tout le monde. Et donc, le problème, c'est que chaque année, il y a 95 000 viols ou tentatives de viols en France. On n'en parle jamais, c'est un chiffre énorme. 95 000 viols ou tentatives de viols chaque année sur les lieux de travail. Chaque jour, c'est 10 viols ou tentatives de viols. Donc, il y a un sujet spécifique sur les lieux de travail. Ça fait des années que la CGT se bat pour qu'on ait des droits spécifiques pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail et que le patronat refuse en considérant que ce n'est pas de leur responsabilité et qu'il faut laisser les bonnes pratiques se faire. Enfin, un discours complètement scandaleux. Donc là, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les consciences, elles ont évolué depuis MeToo. Les consciences, elles ont vraiment évolué. Il y a une super dynamique dans la société, mais on voit les blocages très importants liés au rapport de pouvoir. Les violences sexistes et sexuelles, c'est pas le fait de pervers isolés, mais c'est lié fondamentalement au rapport de pouvoir, ce qui s'appelle le patriarcat, entre les femmes et les hommes. Les hommes qui se permettent... Les hommes qui se permettent d'agresser des femmes, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils sont en situation de pouvoir sur les femmes et qu'ils pensent qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et au travail, il y a des rapports de pouvoir renforcés, liés aux liens de subordination, au fait que le patron, il a un peu la main sur nos vies, et donc il faut avoir des droits supplémentaires pour lutter contre ces violences au travail. Côté syndical, on s'est battu, on a gagné la première loi mondiale contre les violences sexistes et sexuelles à l'Organisation internationale du travail, donc en 2018, j'étais dans la négociation, c'était génial, une magnifique victoire qui s'est faite en plus en s'appuyant sur la mobilisation féministe. Le problème, c'est que cette loi mondiale qu'on a gagnée, la France ne veut pas la mettre en place avec des droits très concrets. Par exemple, ça s'appelle une convention de l'OIT. Elle prévoit que pour les femmes victimes de violences conjugales, on crée des droits à congés payés. pour, dès lors qu'elles déposent plainte, par exemple, contre leur mari, bah après, tout tombe sur sa tête, quoi. On a besoin de tout, de s'organiser sur tout en même temps, et donc il faut qu'on puisse pouvoir s'absenter de son travail sans être pénalisé par un licenciement pour s'organiser. Donc ce qu'on demande, par exemple, c'est 5 jours de congés payés de droit pour les femmes victimes de violences conjugales. Ça existe au Canada, ça existe en Nouvelle-Zélande, ça existe aux Philippines, ça n'existe pas en France.
Rosa ?
Oui, Sophie, tu parles des violences sexistes sur les lieux de travail. Mais au soir de ton élection, au lendemain de ton élection à la tête de la CGT, tu avais mis en cause des pratiques virilistes qui excluent les femmes des cadres militants. Comment on combat à l'intérieur d'un syndicat, d'une association, d'un parti politique, mais là en l'occurrence à l'intérieur des syndicats, ce type de pratique-là? Et est-ce que ta prise de responsabilité a fait aussi bouger des choses, et celles d'autres femmes à l'intérieur de la CGT, est de nature à faire bouger des choses et faire bouger ces cadres militants?
Bah d'abord, on le combat en le disant, et en le disant très tranquillement. Il y a des violences sexistes et sexuelles dans toute la société, donc il peut aussi, malheureusement, y en avoir dans la CGT. Ça, c'est la première chose. Moi, quand j'entends des gens qui me disent « Ah non, moi, des violences dans mon association, dans mon parti, il n'y en a pas », bon bah là, tout de suite, il faut ouvrir ses antennes en se disant « Là, il y a un énorme problème ». Parce que non seulement il y en a, mais ça veut dire que les victimes ne peuvent pas en parler et n'ont pas de cadre pour pouvoir en parler. Donc ça, c'est la première chose. Et dans la CGT, ça fait très longtemps. Moi, quand j'ai adhéré à la CGT, j'ai été accueillie par des militantes qui, tout de suite, m'ont dit « peut y avoir des violences », etc. Donc, ça fait très longtemps qu'on a ces pratiques-là. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, avant d'être secrétaire générale, j'étais en charge de l'activité féministe de la CGT, et on a créé, un an avant MeToo, une cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles, qui est là pour accompagner les victimes, donc de violences internes, hein, quand l'agresseur est un militant, pour entendre leurs paroles et pour faire en sorte que la solidarité se fasse autour d'elle et pas autour de l'agresseur, qui est en situation de pouvoir, en général, s'il se permet ça, pour pouvoir inverser les choses et accompagner la victime. Donc ça nous a permis de faire beaucoup de progrès. On a formé des milliers de militantes et de militants. Après, on a encore beaucoup de travail à faire en interne.
En juin dernier, la CGT a donné une consigne de vote très claire, ce que d'habitude elle s'abstient de faire. Qu'est-ce qui a changé ce coup-ci? Qu'est-ce qui a fait que la CGT est sortie de sa neutralité partisane pour prendre parti avant d'y revenir à la fin du mois d'août où vous avez revoté que maintenant on arrête?
Bon, d'abord, la CGT, elle est indépendante, mais elle n'est pas neutre. Donc, elle donne son avis sur les affaires politiques d'une façon générale, et notamment sur les questions d'extrême droite. On a toujours été très clair, y compris dans les moments difficiles avec des second tours franchement pas agréables, en disant qu'il fallait battre l'extrême droite. Donc, la première chose, c'est que ces élections législatives, elles étaient dans un contexte complètement exceptionnel, où on savait toutes et tous que si on ne se mobilisait pas, l'extrême droite pouvait arriver au pouvoir. Donc c'est ça qui fait que la CGT, d'abord, elle a pris une position claire. Et ensuite, on n'a pas dit seulement « il faut battre l'extrême droite », mais effectivement, on a appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce que, de notre point de vue, dans la bataille contre l'extrême droite, dire non ne suffit plus. Si l'extrême droite prospère, c'est qu'il n'y a pas d'alternative de progrès pour toutes et tous, notamment sur les questions sociales. Et donc, ce qu'on a fait le lendemain, le lundi matin de la dissolution par Macron, à 11h, la CGT sort un communiqué de presse dont le titre était « Contre l'extrême droite, Front populaire ». Et ça, c'était pour dire, pour battre l'extrême droite, il faut, un, l'unité des forces politiques, deux, un programme d'alternative, de rupture avec le macronisme, et trois, une mobilisation citoyenne et sociale.
Mais l'extrême droite ne va pas disparaître demain matin? Donc vous pourrez être amené à reprendre position dans le débat partisan à l'avenir?
Sur les questions d'extrême droite, mais toujours, bien sûr. La CGT a toujours pris position, elle le fera.
Et là, je parle de consignes de vote. Ça pourra réarriver des consignes de vote de la CGT, parce que le RN va rester une force,
oui,
assez forte. Donc,
mais bien sûr, d'accord. Bien sûr. Et surtout, moi, je veux juste dire une chose là-dessus, c'est que, en fait, ça a été une période très dure. Moi, je n'ai pas dormi pendant un mois. Mais je suis hyper fière de ce que la CGT a fait, parce que donc on a pris nos décisions ensemble, c'était des décisions vraiment fortes et assez inédites, à chaque fois quasiment de façon unanime. Chaque semaine on se réunissait, donc tous les secrétaires généraux d'union départementale, tous les secrétaires généraux de fédération en visio, et derrière ça nous a donné une force incroyable sur le terrain avec la CGT qui s'est déployée sur tous les lieux de travail, sur tous les territoires, dans toutes les professions pour affronter le sujet. Et parfois, c'était pas facile. Notamment, on le sait, l'extrême droite, si elle est aux portes du pouvoir, c'est que dans la fonction publique, il y a plus de 30% des fonctionnaires qui votent pour l'extrême droite, même dans la fonction publique. Les ouvriers, la moitié, malgré le taux record de participation aux élections législatives, la moitié des ouvriers se sont abstenus. C'est un énorme problème démocratique. Et chez les ouvriers qui votent, il y en a encore deux fois plus qui votent pour l'extrême droite que pour le Nouveau Front Populaire. Et nous, on a affronté le débat. Par exemple, moi, je suis allée avec les camarades à Renault-Cléon dans le 76. On est majoritaire à Renault-Cléon. Eh ben, on a affronté le débat sur la question de l'extrême droite en disant l'extrême droite, c'est l'ennemi mortel pour les travailleuses et les travailleurs. Et je suis vraiment fière parce que c'est très courageux de la part de tous les syndicats d'entreprise de faire ça. D'un point de vue électoral, on a des élections professionnelles, nous aussi. Hein. Donc d'autres syndicats ont eu des positions différentes en disant « Oh là, tous aux abris, c'est pas notre problème ». Et on est en dehors du jeu. Et heureusement qu'on a fait ça. On sait que les élections législatives, ça s'est joué à quelques circonscriptions près, et chaque circonscription à quelques voix près. Ça a fait la différence. Et donc, moi, je le dis, si c'était à refaire, on referait tout exactement pareil, et on le refera, on mouillera le maillot, parce que on sait, l'extrême droite est un ennemi mortel pour notre syndicalisme, pour la lutte des classes et pour le pays. Il faut affronter le débat. Moi, je sais qu'il y avait des camarades qui disaient « Non, mais c'est politique, ça ne nous concerne pas. » Alors d'abord, on a expliqué on est indépendant, mais pas neutre. Voilà. Et puis surtout, si l'extrême droite passe, il n'y a plus de syndicalisme, il n'y a plus de CGT. D'ailleurs, on savait qu'on serait les premiers en ligne de mire dans le risque existentiel. Donc évidemment, toutes celles et ceux qui n'ont pas le bon prénom, la bonne couleur de peau, la bonne religion, etc., là, on ne joue pas avec ça. Et puis évidemment, quand on est militante et militant, la CGT, on savait qu'on serait en ligne de mire direct. Donc on ne pouvait pas se payer le luxe de rester spectateur du désastre annoncé. Et vraiment, on a fait mentir tous les sondages. Il n'y a pas un seul sondage qui avait prévu ce qu'on a réussi à faire. C'est un tour de force. Et ça doit nous donner tellement confiance pour la suite. Tellement confiance. On a réussi ensemble un truc incroyable parce qu'on a pris les choses en main. Pendant 3 semaines, on a pris les choses en main. On a mis la pression pour que les partis de gauche s'unissent. On a mis la pression pour que la droite, les macronistes prennent un minimum leurs responsabilités en se désistant pour ne pas faire gagner l'extrême droite. On a mouillé le maillot pour démasquer l'imposture sociale de l'extrême droite. Tout ça, c'est grâce à notre mobilisation extraordinaire. Ça doit nous servir de leçon pour la suite. On est capable ensemble de déplacer des montagnes.
Naïm.
Il ne marche plus le micro ? Aïe, c'est bon, c'est revenu. Non, on l'a dit, la CGT s'est déployée assez de manière importante durant la période électorale. Pour autant, le monde du travail est divisé. Quand il vote majoritairement à extrême droite, tu l'as dit. Comment est-ce que la gauche, dans son sens large, peut reconquérir le monde du travail ? Et, hier, lors d'un débat, tu as dit que la gauche avait trahi, avait abandonné la question du travail et qu'il fallait que la gauche redevienne le parti du travail. Qu'est-ce que tu entends par là ?
C'est une question centrale parce que c'est ça qui explique la progression de l'extrême droite. D'abord, pourquoi est-ce que quand on interroge, en plus on a aussi des camarades qui votent plus, voire même des camarades qui parfois ont pu voter pour le Rassemblement National, c'est des choses qui peuvent arriver, même si quand c'est caractérisé et assumé, évidemment, on est très clair sur ces questions-là, il n'y a pas de tolérance, l'extrême droite c'est comme la gangrène, donc il faut être vraiment très clair, mais il faut débattre avant, et puis il y a plein de gens qu'on peut faire évoluer, et donc quand on discute, le premier point qui vient, c'est la gauche nous a abandonnés, la gauche, elle nous a trahis. Et oui, effectivement, Depuis 40 ans, il y a eu une désindustrialisation massive dans le pays. Nos usines sont parties à l'autre bout du monde et on était tout seul à se battre pour défendre nos usines et défendre nos emplois. Et donc, le monde du travail se sent abandonné par la gauche, une partie de, enfin, d'ailleurs, la classe politique. D'ailleurs, c'est un problème qu'on dise classe politique, puisqu'il y a une déconnexion entre le personnel politique et le monde du travail. Aujourd'hui, il y a 6 ouvriers à l'Assemblée nationale. Donc, cette déconnexion, elle est énorme. La droite, c'est pas étonnant, mais par contre, la gauche, c'est un vrai problème. Il y a même des stratèges, de grands stratèges de gauche qui avaient théorisé ça en disant « ça sert plus à rien de parler aux ouvriers, aux employés, de toute manière, ils vont pas voter ». Mais ça, c'est grave. La gauche, ça doit être le parti du travail contre le parti du capital. La gauche, elle doit défendre les travailleuses et les travailleurs pour leur permettre de se faire respecter face au capital, face aux patrons, face aux milliardaires, à tous les rentiers qui vivent de notre travail. Voilà le logiciel de la gauche.
Léa ?
Vous faisiez état tout à l'heure des actions et de la stratégie qui a été mise en place pour faire barrage au Front National, enfin au Rassemblement National, et pour pousser le front populaire. Qu'est-ce qui est fait au quotidien au sein de la CGT pour lutter contre l'extrême droite ?
D'abord, on fait beaucoup de formations en direction de nos militants et militantes. Je pense que c'est ça qui a permis qu'on réagisse aussi vite et de façon aussi homogène. Et du coup, en fait, on a eu une position très très forte, très claire, et il y a très peu de cartes qui ont volé, en fait. Donc ça montre que le travail était fait dans l'organisation, mais c'est pas suffisant. Et donc là, on a réuni donc à nouveau notre Parlement fin août, donc toutes nos unions départementales, fédérations, etc. Et pendant une journée, on a débattu que de la question de l'extrême droite, avec aussi des universitaires pour nous aider à mieux réfléchir à ce qui se passait. Et la décision qu'on a prise, c'est de centrer notre stratégie syndicale sur la question de la lutte contre l'extrême droite, parce que ça ne peut pas être une option, une question annexe. Et donc, dans cette stratégie, évidemment, il faut lutter contre le déclassement, parce que l'extrême droite, elle prospère sur le sentiment de déclassement, l'idée que c'était mieux avant. Mais il faut aussi, au même niveau, lutter contre le racisme et l'antisémitisme, parce que oui, il y a une composante raciste dans le vote contre l'extrême droite. On l'a vu pendant les élections législatives, il y a eu un racisme décomplexé dans toute la société et sur les lieux de travail. Et donc on a décidé de faire une campagne intersyndicale, donc c'est l'ensemble des organisations syndicales qui ont décidé de faire une campagne intersyndicale contre le racisme et l'antisémitisme sur tous les lieux de travail. Et ça, c'est très important. Le but, c'est aussi d'interpeller les patrons sur leurs responsabilités, parce qu'ils sont responsables aussi d'un certain nombre de comportements racistes dans les entreprises. Et puis, comment est-ce qu'on combat l'extrême droite ? Encore une fois, je reviens à la case départ. Il faut une alternative et des perspectives. Je disais, on se sent parfois abandonné. C'est plus possible que la question du travail, elle soit déléguée au patronat. Il y a un certain nombre de forces politiques qui disent, en fait on fait un peu le tour des députés actuellement, donc je vois qu'ils disent par exemple, non, les salaires c'est le patronat, nous on va pas en parler, etc. Non, en fait, il n'y a pas la question de nos conditions de travail, de nos salaires, de l'organisation de la production, de la finalité de la production. C'est une question citoyenne sur laquelle nous, évidemment, comme travailleuses et travailleurs, on doit avoir la main dans les entreprises, mais sur laquelle les députés, les représentants politiques doivent avoir leur mot à dire. Le problème, c'est que le champ de débat de la gauche, c'est aussi trop résumé. La gauche, elle ne peut pas se contenter de parler de fiscalité, de culture, de gestion des collectivités locales, de transport. C'est très important, mais il faut parler du capital. On a besoin que la gauche nous dise comment elle reprend la main face au capital, comment est-ce qu'elle affronte les multinationales et comment on reprend le pouvoir.
Rosa ? Attends, le micro de Rosa, il marche ou pas ?
Tu viens d'évoquer les engagements antiracistes de la CGT, et ces dernières années, la CGT, elle s'est un peu illustrée en accompagnant en fait les travailleurs sans papier, en aidant à organiser des grèves pour leur régularisation. Il y a eu des grandes vagues de grèves de travailleurs sans papier. Il y en a eu encore récemment avec les travailleurs sans papier des chantiers des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que cette expérience des grèves des travailleurs sans papier a apporté à la CGT, et qu'est-ce que ça vous apprend aussi de la façon de d'aider à organiser des travailleurs extrêmement précaires, extrêmement fragilisés, qui s'exposent à se faire virer immédiatement, bien sûr, en cas d'engagement dans une action syndicale.
C'est une des plus belles expériences syndicales de la CGT. Ça fait depuis 2008 qu'on a lancé ça. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a lancé, on a transformé le droit de grève en un mode de protection. Parce que le droit de grève, c'est se rendre visible face au patronat. Et vous le savez, en théorie, le code de travail interdit de licencier des grévistes. Et donc, comme ça, ça permet aux travailleurs, aux travailleuses sans papier de se dévoiler en disant « Oui, je n'ai pas de titre de séjour ». Mais en se mettant en grève, du coup, ça empêche le licenciement dans une démarche collective. Donc, c'est une stratégie syndicale géniale à l'image de toutes les stratégies syndicales qu'on a. Je trouve que déjà, c'est génial. Ensuite, la deuxième leçon, c'est que les travailleurs et travailleuses sans papier, c'est celles et ceux qui ont le moins de droits dans notre société. Qu'ils et elles soient capables de se mobiliser pendant des mois, parce que là, la dernière grande grève qu'on a lancée, on l'a lancée en octobre, avec plus de 300-400 travailleurs et travailleuses sans papier, ça a duré 5 ou 6 mois quasiment, et à la fin, on gagne. Ça donne une leçon à tous les autres, quoi. Enfin, tous les autres qui, parfois, on ne fait pas grève. Évidemment, un jour de grève, ça coûte, etc. Bon, eux, ils arrivent à faire ça, alors nous, il faudrait quand même qu'on soit à la hauteur. Et puis le dernier point de leçon, peut-être le plus important, c'est que en fait, ça permet de changer le regard sur les travailleurs et les travailleuses sans papier. Très souvent, la façon dont la question elle peut être traitée, notamment à gauche, c'est avec un discours misérabiliste, charitable. Ce discours misérabiliste, charitable, il n'y a personne qui en veut. Pareil sur d'ailleurs tout le discours sur les travailleurs et travailleuses, pauvres, etc., etc., tout ce qu'on veut. Mais on n'a pas envie de votre charité. En fait, nous, comme travailleurs et travailleuses, on a des droits. Et on a des droits pourquoi ? Parce que c'est nous qui, par notre travail, créons toutes les richesses de la société. Et c'est ça... Et c'est ça que rappellent par leur grève les travailleurs et travailleuses sans papier. Et comme ça, ça change fondamentalement le regard sur l'immigration. On passe d'un regard sur « ils viennent nous voler nos richesses », etc., à un regard sur « en fait, quand ils sont pas là, le pays ne peut pas tourner ». Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de secteurs qui ne tournent que parce qu'il y a des travailleurs, des travailleuses sans papier. Les secteurs les plus pénibles, bien sûr, mais aussi les hôpitaux. S'il n'y avait pas de travailleurs et de médecins étrangers, nos hôpitaux fermeraient tous. Heureusement qu'il y a des travailleurs et travailleuses étrangers. Et cette question de, justement, pas de regard misérabilisme, la dignité du travail, en fait, si j'avais juste un message à dire à la gauche, c'est celui-là. C'est on ne veut pas de votre pitié, de votre charité. On veut un discours en direction des travailleurs et des travailleuses pour nous dire qu'on a des droits parce qu'on le vaut bien et que c'est nous qui créons des richesses et que toutes et tous dans cette salle, quel que soit notre boulot, on est toutes et tous fiers de notre travail. Et c'est ça qu'on attend, que la gauche nous dise, comme on est fiers, qu'on est des bons professionnels, qu'on produit des richesses, on a des droits, on va vous défendre face au patronat et au capital.
Ariane ?
Demain, Dominique de Villepin, il va venir à la fête de l'UMA. Il va probablement être applaudi par le public. Adèle l'a rappelé tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière militante contre le CPE, donc contre Dominique de Villepin. Ça dit quoi ? Oula !
T'inquiète.
Ça dit quoi de l'état politique du pays ?
Ouais, c'est vrai que en fait, quand on voit que Dominique de Villepin et Jacques Chirac, s'il était encore vivant, deviennent un peu les icônes de la gauche... C'est très inquiétant sur le déplacement de l'échiquier politique. C'est vraiment très inquiétant sur les digues qui sautent, les points de repère qui sautent. Après, je vois des gens qui dodelinent de la tête, ils ont bien raison. C'est que Chirac et Villepin restent quand même libéraux et sur les questions sociales. Enfin, bon, Chirac, paix à son âme, mais sur les questions sociales, c'est pas nos amis. Moi, je me souviens, en 2006, le meilleur souvenir que j'ai, à l'époque, c'était Bruno Le Maire, le directeur de cabinet de Villepin.
Ouais, de Villepin, ouais.
Et je m'en souviens très bien, parce que le lendemain de l'enterrement du CPE, il nous avait reçus et il nous avait dit « Vous avez gagné, nous avons perdu ». Et c'est un de mes meilleurs souvenirs militants, parce que derrière,
Bruno Le Maire,
ça donne la gagne.
Elle est pas mal, celle-là.
Donc, rien que pour ça, merci Villepin.
Merci Villepin.
Bah, il a surculé, lui. Il a su reculer. C'était aussi une autre époque.
Oui, tout à fait. Bon, il l'a fait parce qu'on a été très forts. Mais effectivement, oui, à la fin, ils ont compris. Ils auraient pu passer en force comme des, ouais, comme des fous.
49-3 était engagé, d'ailleurs.
Mais ils ont lâché. Et la leçon aussi de cette époque, c'est à quel point l'alliance entre les jeunes et les salariés, c'est un ingrédient indispensable de la victoire. Et dans ce qui nous a manqué dans la mobilisation contre la réforme des retraites, les jeunes n'étaient pas assez. Il y avait des jeunes salariés, mais les jeunes scolarisés n'étaient pas aussi présents qu'ils étaient pendant la mobilisation contre le CPE, où il y avait une grève reconductible massive de toutes les universités. Et on n'avait pas ça pendant la réforme contre les retraites.
J'ai une dernière question pour vous. Il y a un phénomène intéressant sur les réseaux sociaux qui émerge de plus en plus. Ce sont des jeunes qui témoignent de leurs conditions de travail, qui témoignent de leur management brutal, de leurs horaires absurdes, de leur souffrance au travail. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre que beaucoup de jeunes ont une acuité sur ce qu'ils vivent et qui considèrent que c'est dégueulasse, et ils ont bien raison, mais c'est aussi le fait qu'ils le partagent et qu'ils le disent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui démarre sa vie professionnelle et est d'ores et déjà confronté à des choses qui ne devraient pas exister?
Bah, je veux lui dire que c'est pas normal, hein. Qu'il n'y a pas de fatalité, quand on s'organise on peut changer la donne, et qu'aujourd'hui effectivement le patronat sait ce qu'il fait et sait que quand il a des jeunes qui arrivent en entreprise, il a des jeunes qui peuvent être isolés, ne pas avoir tous les points de repère, ne pas connaître leurs droits, et qu'il va pouvoir les exploiter plus que les autres. Il y a une donnée qui est très peu connue, c'est qu'en fait il y a un chiffre qui est encore une fois très peu connu, c'est que chaque jour il y a quasiment 3 ouvriers qui meurent au travail en France, 3 ouvriers qui meurent au travail chaque jour à cause de leur travail. Mais dans ces morts et ces accidents au travail, il y a une prédominance de jeunes. Ça, c'est vraiment contre-intuitif. On se dit, ça va être d'être âgé, d'avoir des conditions de travail pénibles, etc. Non, c'est beaucoup des jeunes. Pourquoi ? Parce que justement, on n'est pas organisé collectivement, donc on ne peut pas refuser des conditions de travail dangereuses, parce qu'on va moins connaître les gestes du métier, qu'on va être plus soumis à des cadences, à de la précarité. Et donc vraiment, mon message, c'est il faut se syndiquer pour se protéger. On a besoin que les jeunes se syndiquent. Organisez-vous. Et j'ai envie de dire, envahissez-nous, prenez le pouvoir dans les organisations syndicales.
Merci beaucoup Sophie Binet d'avoir été notre invitée sur le plateau de Backseat, ici en direct de la Fête de l'Humanité. On arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup Rosa, merci beaucoup Naïm, merci beaucoup Léa, merci beaucoup Ariane. C'est la fin de cette émission. Rappelez-vous, vous pouvez bénéficier de 5 mois d'abonnement à la version numérique de l'UMA pour seulement 5 balles. Profitez-en. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci le public.
Alors, j'ai juste un truc. On est en rupture de stock. C'est la dernière. Et je voulais apporter... Donc s'il y a un amateur...